just as I let you go. I'll pull back in by your hair on my coat, and all those songs we hate seem to be the DJ's favorite ones today. Not proud of how I hit, but how I handle things doesn't change what you did. Why'd you make me choose?
Je crois que c'est à moi. Je crois que c'est à moi. Le micro est ouvert. Je vois mon visage dans l'écran d'ordinateur. Je vois qu'il y a un petit carré vert. Ça veut dire que je suis en, ça veut dire que je suis en stream. Ça veut dire que je suis en live. Ok. Comment ça va? Bonjour les amis. Profitez bien de cette matinée, Étienne, de cette revue de presse allongée ce matin. Pourquoi? Parce que c'est la dernière. Oui, mesdames et messieurs, c'est la dernière revue de presse de cette semaine. Parce que eh ben je reprends les tournages de questions pour un champion. Ouais, demain, mercredi et jeudi et vendredi. Mais de bonnes nouvelles. D'abord, ce n'est pas le dernier stream de la semaine parce que vendredi soir, on sera bien sûr dans l'Hebdo Étienne. Voilà, je vais essayer de vous proposer cette émission hebdomadaire, comme l'indique assez subtilement d'ailleurs son nom, l'Hebdo Étienne. Chaque vendredi, trois invités pour revenir sur l'actualité. La première s'est bien passée la semaine dernière. Oh, j'étais trop content. Voilà. La deuxième, c'est vendredi. Avec quels invités? Pap, 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 un chasseur sachant dans le chat écrit. Waouh, je suis content de ne pas avoir bugué. Un chasseur sachant dans le chat écrit. C'est trop dur à dire. Et une troisième fois, un chasseur sachant dans le chat écrit. Oh, c'est beau. C'est qui les invités? Ah ah ah, suspense. Je vous le dirai mercredi. Je pense que je vous le dirai demain soir. On veut les noms, dit Gandalf. Non, demain soir, demain soir, demain soir. Donc, il y aura un stream vendredi soir, bien sûr. Ça s'est calé, c'est prévu. Je suis en train de travailler déjà sur la programmation de l'émission de vendredi d'après. C'est pas facile de faire venir trois personnes différentes toutes les semaines. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que dimanche matin, il y aura aussi un stream de Mathilde Etienne de Revue de Presse. Mais c'est plus tout à fait la semaine. Donc lundi, mardi, vendredi soir et dimanche matin, ça fait 4 streams. Ouais, je suis désolé, franchement, j'ai un peu honte. C'est vraiment le minimum, mais avec Question pour un champion, c'est un petit peu compliqué. Bien sûr qu'on va t'envoyer un max de courage, le Carme qui est écrit dans le chat à l'instant. Le Carme, est-ce que tu peux me donner du courage pour que je puisse réussir ma soutenance orale de mon mémoire? D'abord, dans la commune, on t'envoie plein de force et sache que c'est statistique. Tous ceux, toutes celles qui regardent ce stream ont 100% de réussite à leurs examens. C'est scientifique, on n'est pas dans le domaine du doigt mouillé comme ça au vent. Non, c'est scientifique. 100% des gens qui regardent ce stream réussissent leurs examens. Vous pouvez en témoigner dans le chat d'ailleurs, je suis sûr. Est-ce que quelqu'un dans le chat ici a raté un examen depuis qu'il regarde la Matinée Etienne? Non, je sais, c'est impossible. La plupart du temps, même, c'est avec mention. Donc on t'envoie de la force, on t'envoie de la réussite. Alors je vous lis un petit peu et puis on. Une petite revue de presse. Qu'est-ce que ça raconte? D'abord, je vais remercier les subs de Bon Matin parce que avant même que je lance le stream, il y a 25 minutes par exemple, Ozymandia FG qui est peut-être avec nous. Merci pour un an de subs. Merci de ta fidélité, vraiment très sincèrement. Drunk Gamer, on approche des 12 mois, déjà 10. Merci à toi, merci pour ton prime, la forme. Je le suis, j'espère que toi aussi. Au Calme TV, j'espère que tu vas bien. Merci pour ce deuxième mois d'abonnement. Bien le bonjour à toi et Ankila, à l'instant, 12 mois. Oh, 12 mois aussi. Sicarno, Rangéry, 11 mois d'abonnement. Oh, c'est important. Je peux voir le stream en direct qu'une fois par mois. Je peux donc sub à chaque fois. C'est cool. Une fois par mois, ça veut dire que tu es super occupé, ça. Sicarno, merci pour ton sub. Est-ce qu'on va reparler d'Artemis aujourd'hui? Oui, rapidement, puisqu'on va dire que c'est raté, elle n'a pas décollé. J'espère que nous n'avons pas de responsabilité là-dedans. Jérémy Dupuis, comment vas-tu? Merci pour le 11e mois. Et Mike Forgeron, merci pour ton prime à l'instant. Oui, Alexandra a raison. Joyeux anniversaire, Malo. Joyeux anniversaire, Malo. Joyeux anniversaire, Malo. Joyeux anniversaire, mon petit-fils aîné adoré qui vient d'avoir 6 ans ce matin. Joyeux anniversaire, Malo. Est-ce qu'on va fêter ça avec Malo, mon grand garçon de 6 ans aujourd'hui, pop, comme le temps passe, avec un quiz Pokémon? Je ne sais pas, j'ai cru comprendre qu'avec la nounou et son petit frère, il allait ce matin dans un jardin avec plein de boules. Un truc un peu pour faire la fête à 10h. Alors, est-ce qu'il passera avant 10h? Ça m'étonnerait. Est-ce qu'il passera après 10h? On va croiser les doigts, voilà, pour voir passer Malo ce matin pour fêter son anniversaire avec lui. Mais rien n'est moins sûr. La vie est un mystère. La vie est faite pleine de surprises, d'accidents. Il faut l'accepter comme ça. 100% des gens qui regardent ce stream réussissent leurs examens. Témoignage de Rashtok. Je témoigne, j'ai tout réussi grâce à ce stream. Témoignage de Atiris. Diplôme obtenu, évidemment. Ben oui, voilà, bien sûr. Voilà. J'ai jamais raté d'examen, dit Amema. Voilà. Nif Kalat. Jamais raté d'examen non plus. Même ma copine m'a quitté. Ah oui, alors là-dessus, je suis pas très efficace. Ouais, pour les examens, ça va. Je garantis la réussite, mais alors ça pour l'amour. L'amour, c'est compliqué. L'amour, c'est compliqué. Voilà. Merci monsieur, j'ai mon oral de mémoire dans une semaine. Moi, me dit Lord Addington. Pff, aucun suspense. Ton mémoire, tu vas l'empocher les doigts dans le nez. Meltox, merci pour les bits. Merci pour le 5e mois d'abonnement. Lucky Fredo, merci pour le prime et merci de transformer votre prime en soutien à vos streamers et streameuses préférés. Non, les examens positifs Covid, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Le message de Tigon m'a fait peur un moment parce que je n'ai vu qu'une partie du message. J'ai grandi de 4 cm en longueur depuis que je regarde ton stream. Ok. Depuis que je regarde la Matinée Etienne, j'ai perdu 5 kilos et mes cheveux ont repoussé, me dit Trajan. Mais oui, mais bien sûr, bien sûr. Voilà, super Boubou a eu son permis moto ce matin. Bah, tu l'as passé tôt, ton permis moto. Félicitations. Vive les motards. Tu vois, ça marche aussi pour le permis moto. Va. Voilà, Sunrise, j'ai réussi mon entretien de changement de poste grâce à Samuel Etienne. Bien sûr. J'ai eu ma prime, ce ne peut être que grâce à ce stream, dit Pierre. Mais oui. Je rappelle que tout ce qui est financier, prime, augmentation, nouveau job, je prends 10%. Hein. C'est-à-dire que bon, sur les examens, voilà, je vous demande pas, voilà, je sais pas. Mais sur tout ce qui est financier, vous êtes d'accord que si c'est grâce à moi, c'est 10%. Hein, cela va de soi, mais mieux encore en le disant. Merci Cornelius Kantz pour ce sub. Merci Juninho pour les beats. Sexis, qu'est-ce que c'est que ce pseudo? Sexis, merci pour le sub. Ah, voilà un message qui me fait plaisir. Lisons-le. Articulons, chaque mot est important. Wartogounet, ce matin, a fait un switch de BFM vers la matinale de France Info. La matinale de Bibi. Ce matin, c'était top, merci ça. Mais bien sûr, hein, oserais-je dire que la matinale de France Info que j'ai l'insigne honneur de présenter est la meilleure matinale de toutes les chaînes info? Oserais-je le dire? Oui, je le dis. Oui, je le dis. Et je le démontre. Voilà, je le démontre. On va aller sur Twitter, sur le compte Twitter de Papy Sam. Ici, c'est. Il n'y a rien. Oh, c'est Google, tout marche, ça fonctionne. On va sur Twitter. On va sur le compte de Papy Sam qui, bah, de temps en temps, le matin, poste une petite vidéo d'ambiance juste avant de prendre l'antenne à 6h sur France 2. J'adore la tête de ce gamin. À 6h30 sur France Info pour la matinale sur le canal 27, 6h30, 8h30. Voilà, là, c'était pour annoncer le stream de ce matin. C'est super la rentrée! Voilà, bah, ça, c'est pas moi petit, mais je trouvais ça rigolo de poster ça. Et. Je suis assez fier de cette connerie. Ça, c'est une photo que j'ai postée vers. À quelle heure? Il y a 2 heures, donc vers. En plein milieu de la matinale. Voilà, je trouvais que j'avais une tête un petit peu constipée sur cette photo. Qu'est-ce que vous en pensez? Un petit peu constipée. Et c'est une capture d'écran qu'a fait un téléspectateur. Et du coup, j'ai posté ce commentaire. Quand tu es super concentré sur l'info, mais que tu as quand même envie de dire une connerie. Ça, c'est moi. Dans ma tête, c'est toujours ça. J'ai envie d'être sérieux. Parce que c'est un peu mon métier. Et puis, j'ai envie de dire pas mal de conneries aussi. Voilà. Du coup, sur Twitch, on est un petit peu plus libre par rapport à ça. Donc, vous avez un peu plus le versant. Oh! Il y a Dookie Tookie, tu retiens ton vomi. Non, 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 non. C'est pas ça que je voulais vous montrer. Juste avant de prendre l'antenne à 6h. Ça, c'est encore ma tête de constipé, j'adore. Juste avant de prendre l'antenne à 6h sur France 2, j'ai fait une petite vidéo dans les coulisses, dans la matinale. Tiens. Voilà. Il y a du son, il y a du son. Tiens. Alors d'abord, un, c'est la meilleure matinale de l'univers. Et deux, il y a une super ambiance, démonstration.
Bonjour à tous, on est à quelques minutes de la prise d'antenne sur France 2 et sur France Info pour la matinale. Sur quoi toute l'équipe travaille en ce moment? Malik, David, vous travaillez sur quoi là? Sur les talents d'acteurs de Stéphane Bern, c'est ça?
Ouais, très bon, très bon. Ils étaient en train de se foutre de la gueule de Stéphane Bern. Tiens, on va aller voir la vidéo sur Twitter. Dans son téléfilm policier, la scène où il tue quelqu'un avec un drone, ils étaient en train de se foutre de sa gueule. Je les ai pris en la main dans le sac. Ils étaient un peu gênés. Regardez, regardez. Revoyons la séquence maintenant. Vous allez voir comment je les ai bien eus.
Sur quoi toute l'équipe travaille en ce moment? Malik, David, vous travaillez sur quoi là? Sur les talents d'acteurs de Stéphane Bern, c'est ça?
Ouais, très bon. Très bon. Gêné. Gêné. J'ai peur de rien. Je m'en fous. Super gêné.
Série. Allez voir la vidéo, ça vaut le coup, vous trouvez sur Twitter.
Ah, en plus, c'est sur France Télévisions. Hein. Ah ouais, j'ai peur de rien, je suis un fou. Ok, on va aller voir Virginie qui est le super chef d'édition.
Virginie, ça va sur quoi là? Ça va sur quoi là?
Sur les bandeaux.
Sur les bandeaux.
Sur le bandeau, le truc qui défile en bas de l'écran là. Voilà, Virginie, elle est super. C'est une Rolls à l'édition. Quelqu'un de super important, je l'adore.
Je vous expliquerai là, les bandeaux, c'est un truc super compliqué.
Non, en plus, elle fait un pique-nique chaque fin de saison chez elle. Elle vit un peu à la campagne. Je sais pas combien de temps elle met pour venir au boulot chaque matin, alors qu'elle se lève aux aurores. Elle fait un pique-nique dans son jardin avec toute l'équipe de la matinale en fin de saison. On se régale.
Nathan, ça travaille sur quoi là?
Nathan, c'est le beau gosse. C'est l'autre chef d'édition, c'est le beau gosse. C'est le beau gosse, c'est le beau gosse, c'est le séducteur. Et il est super carré aussi. Super carré. Sur quoi il bosse, Nathan, là?
Le journal de Mickey.
Oh, c'est vrai, il travaille vraiment ce jour.
Et il était en train de bosser sur le journal de Mickey. C'est du joli.
Le journal de Mickey, c'est chaud, quoi. Tiens, on va aller voir David Lefort, qui est notre spécialiste de science. J'espère que ça va remonter un petit peu le niveau, là. David Lefort, rassure-nous, tu travailles pas sur le journal de Mickey, là?
Non, je travaille pas sur le journal de Mickey, je travaille sur la prochaine chronique. On va parler du déclin des insectes.
Voilà, quelqu'un de sérieux.
Déclin des insectes, parce que vous en avez beaucoup moins sur votre pare-brise cet été, si vous avez la chance de prendre des vacances et de circuler, il y avait moins d'insectes. Pourquoi? On va vous expliquer.
Suspense.
Ah oui.
À tout de suite.
Est-ce que c'est pas.
Bonjour à tous, on est à quelques minutes.
Ça va, t'as assez attendu, papy. Est-ce que c'est pas la meilleure matinale du monde, ça? Hein? Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? On fait un sondage? On fait un sondage? Clamaquin, bonjour la famille, c'est Jérôme de la régie. Tu as oublié de me rendre mes 6 euros Machine à café. Bah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est moi qui arrive le premier, personne m'offre des cafés. Fake news, fake news. La fameuse scène du droit, on va aller voir hein, cette scène de Stéphane Bern. Oh, on va aller voir cette Stéphane. Hein? Il paraît que t'as confondu tes chroniqueurs. Non, pas si. Ah oui, non, oui. Yo Ascan. Oui, alors en fait, j'ai des excuses à présenter. Merci la direction qui m'a mis dans mon équipe de chroniqueurs deux Alix, deux David. Merci. Alix Bouilleguet pour la politique, Alix Doge pour l'agriculture. David Delos pour l'économie, David Lefort pour la science. Et je confonds souvent mes deux David. Enfin non, je ne les confonds pas, mais j'ai interverti leur nom. Voilà, David Delos, David Lefort. C'est surtout David Lefort que j'appelle David Delos. Et ce matin, du coup, on a enquêté là-dessus, parce que ça fait des mois que je me trompe, ça les fait rire. En même temps, ils doivent se dire, mais il est complètement con ou quoi, putain. Et ce matin, on a trouvé. En fait, David Delos, non, j'ai recommencé. David Lefort, le spécialiste science, souvent, il n'est pas en plateau avec moi. Il est au hub, il est sur un grand écran tactile où il monte des images pour ses chroniques sciences, etc. Et tout. Du coup, moi, je suis en plateau. Quand je lance sa chronique, David Lefort pour la science, je ne le vois pas, il n'est pas sous mes yeux. Et c'est là que dans le cerveau, ça bifurque. Et je l'appelle David Delos une fois sur deux. La rentrée a commencé hier, c'est mon deuxième jour de vraie rentrée, même si j'étais là la semaine dernière. Deuxième jour, j'arrive à me gourer, quoi. Voilà, voilà. Puis j'ai un vrai problème avec les noms et les prénoms. Élodie d'Argenton, qui présente le JT. Eh ben, mon cerveau a envie de dire, tous les matins, Élodie Borne. Parce que je n'arrête pas de parler de la première ministre Elisabeth Borne. Hein, son discours devant le MEDEF hier, les réformes, Elisabeth Borne. Eh bien, j'ai envie d'appeler Élodie d'Argenton Élodie Borne. Voilà. Et ça va sortir, vous verrez. C'est la honte. Voilà. Mais venez nous voir. C'est une super matinale. Qu'est-ce que c'est que tous ces subs? Tiens, on va aller voir le truc avec Stéphane Bern dans un instant. Merci Cannibal Lecteur, comment vas-tu? Merci pour ce 11e mois d'abonnement, merci Eskir pour ce 2e mois d'abonnement, merci beaucoup 66 Abigail pour tous ces bits, Tiam129, merci pour ce 10e mois d'abonnement. Cornelius Kant, je ne sais plus si je te remercie dans le doute, je le refais. Allons voir donc, qu'est-ce que c'est drôle, cette vidéo-là, tuée par un drone avec Stéphane Bern. Vous ne l'avez pas vu? Non, c'est plus l'OREM par hier, le JT Defecator. Que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Mais là, c'est Elodie. Stéphane Bern. Alors. Où est la vidéo? Elle est là. Attends. Il y a un super site. Un super compte sur Twitter qui s'appelle Nanarland. On va. Qu'il l'a bien. Je crois que c'est Nanarland. Nanarland. Vous connaissez Nanarland? C'est un super compte Twitter. Vous connaissez Nanarland, le site des mauvais films sympathiques, tout le monde du nanar cinématographique. Regardez. Rodélien, shall I take the taxi now? Ok. Excusez-moi, les enfants sortent dans un petit jardin, un petit parc, là ce matin, et ils ont besoin d'un mode de transport. Il faut qu'elle me donne l'adresse. Vous m'excusez 30 secondes, je vais commander un taxi pour la famille. J'arrive. Parlez-vous, donnez-vous de vos nouvelles, racontez-vous des choses, tout ça. Hein, j'arrive. Hein, vous n'avez pas besoin de moi, en vrai. J'arrive. Oh la honte. Est-ce qu'il y a juste une question comme ça, entre, on est entre nous, hein. Est-ce qu'il y a beaucoup de streamers qui vous abandonnent en fait, qui vous abandonnent en fait, comme ça, voilà. C'est, moi je me permets, je viens à la maison, on est cool, tout le temps, ah tout le temps, de ouf, me dit Gardial. Ouais, tous les streamers le font. Oh, moi qui me stressais à mort avec ça, ils vont faire pipi des fois. Non. Frisquetozo, les streamers ne font pas pipi. Il y en a qui dorment comme Sardoche, ça j'ai vu ça. Ponce, oui. Ah, tous les jours, mine. Ok. Il n'y a que toi, un gramme, dit Chou, Sushi Poops Reine. Jamais. Mets-toi ce que tu veux. C'est courant. Ok. Ouais. Ok. Et oui, normalement, on fait des grosses teufs secrètes, mais ici, personne ne joue le jeu. Regarde Purple. Ok, d'accord. Bon, allez, je vous parlais de ce compte Twitter qui est génial, qui s'appelle Nanarland. Le site des mauvais films sympathiques, tout le monde sur. Tout sur le monde du nanar cinématographique. C'est vraiment super. Et donc, je crois que. ils ont passé un extrait de la série avec Stéphane Bern. Ah, c'est ça. Voilà. Donc, on est sur la série. Je sais pas comment s'appelle cette série, Stéphane Bern. Je vous avoue, j'ai pas eu le temps de regarder encore. Comment s'appelle cette série avec Stéphane Bern? C'est sur le service public, non? C'est sur quelle chaîne? Comment ça s'appelle? Quelqu'un qui connaisse? Donnez-nous des infos, bordel. Au nom de mon fils. L'honneur d'un fils. France 3, ok. Oh putain, c'est ma chaîne. Ok. J'adore. L'honneur d'un fils, ok. Donc, série policière, donc. Et donc, Nanarland, et puis d'autres. Eh bien, c'est pas mal moqué. Voilà. Regarde le tweet, bah non, il y a Julien qui se moque de moi, regarde le tweet. Ah bah c'est pas marqué, hein. Il a beaucoup tourné ce week-end, mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, voici la formidable scène du meurtre à coups de drone de Stéphane Jason Bern dans l'honneur d'un fils, c'est marqué en fait. Avec en bonus du très beau jeu d'acteur. Alors Samuel, déjà toi tu vas passer au second plan là. Attends, regarde ce que je vais faire. Ça va marcher ? Ah non, je devrais passer au second plan là. Je viens de. Ah bah non, ça n'a pas marché. D'accord, donc en fait j'ai fait n'importe quoi. Ah non, c'est passé. Attendez, magie du stream, attendez. Parce que je suis un champion, enfin pas du tout d'ailleurs. Attendez, je vais faire comme ça. Oh magnifique. Si on en profitait d'ailleurs peut-être pour resizer cette. Peut-être comme ça, peut-être. Peut-être. C'est pas mal comme ça. Oh là là, en direct. Oh, quel streamer le fou. Regardez cette scène qui est incroyable.
Quand les flics vont aller chez toi et qu'ils vont découvrir ton obsession, vous êtes allé chez moi.
Donnez les clés.
Saute. Saute, je te dis. Ça va durer qu'une seconde. Dis-toi que tu vas retrouver ton fils. Tu sautes, oui ou merde.
Si vous voulez me tuer, faites le sale boulot vous-même.
Personne ne croira que j'ai pu me suicider.
Rien ne va. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de cinéma, mais il paraît que rien ne va, disent les commentaires sur Twitter dans cette scène. Alors, qu'est-ce qui va pas? Alors moi, ma lecture, moi. Bon.
Quand les flics vont aller chez toi et qu'ils vont découvrir ton obsession, vous êtes allé chez moi.
Ah oui, attends, je sais. Attends déjà, regardez le paysage. Il paraît qu'il y a un truc.
Personne ne croira que j'ai pu me suicider.
Oui. Quand les flics vont aller chez toi et qu'ils vont découvrir ton obsession.
Vous êtes allé chez moi?
Donnez les clés.
Saute!
Saute, je te dis. Ça va durer qu'une seconde. Dis-toi que tu vas retrouver ton fils.
Tu sautes, oui ou merde?
Si vous voulez me tuer, faites le sale boulot vous-même.
Donc là, il va le tuer avec un drone. Donc voilà, donc là, déjà, il vise très bien. Juste, qu'on se remette le drone, quand même. Et paf dans la gueule! Bon, moi ce qui me choque le plus c'est cette scène là, c'est on n'y croit pas, on croit pas qu'il est mort en fait. Je sais pas pourquoi, mais on croit pas qu'il est mort en fait. On croit que là je vois pas un mort, je vois un acteur qui s'est mis du sirop de grenadine sur le pif quoi. Voilà, je n'y crois pas du tout. Je sais pas pourquoi, je sais pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans cette scène? Parce que moi, je sens que quelque chose ne va pas. Mais quoi? Alors, dites-moi. Le sang sur Twitch, ça passe? Mais ce n'est pas du sang. C'est de la grenadine. Alors, défécateur, pour piloter des drones, je peux dire que viser aussi précisément à cette vitesse, c'est déjà hyper difficile. Ça, c'est du cinéma, c'est pas grave. Non, mais c'est dans la... Voilà, c'est Clamaquin qui dit évidemment, Bern est à droite, et puis après, il est à gauche, ça n'a pas de sens. Exactement, voilà. Règle de cinéma bafouée, renchéri, Mériadon. Voilà. Voilà. Tout le jeu d'acteur, les champs contre champs, rien ne va, me dit Tête de Brique. Mais oui, les plans, les raccords, l'édite, horrible, dit Chucky Max. Voilà. Hein? Le jeu d'acteur, ça se pardonne, écrit Anne Outrand, mais le drone avec des pales en vibranium, là. Ouais, c'est vrai. On dirait un film étudiant, no joke, dit Valdren. Voilà. Il y a un faux raccord avec la falaise. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Un problème de 180 degrés. Mais oui. Ouais. C'est la règle des 180 degrés. Alors, bon, moi, j'ai vu beaucoup de commentaires sur Twitter sur la règle des 180 degrés. Là, je fais le malin. Je ne sais pas ce que c'est. La règle des 180 degrés. C'est quoi la règle des 180 degrés dont certains parlent? C'est quoi la règle des 180 degrés? Apprenons, soyons un peu plus savants. C'est quoi la règle des 180 degrés? Il y a Robert De Niro qui est dans le chat. C'est Iji qui dit « Je suis Robert De Niro, je confirme que c'est pas ouf la scène. » Robert, Bob, nice to see you in the chat. Alors, c'est quoi la règle des 180 degrés? Les cinéphiles, il ne faut pas dépasser 180 dans un champ contre champ. Crozix, merci. D'accord, ok. Alors, ça a l'air très clair pour vous, mais c'est un problème d'angle. Mais non, inspecteur Virginie, ça n'est pas un problème de thermostat. Thermostatisme, dit Virginie, 180 degrés. Oh, elle est bonne. Hein? Mais attention, Cyril. Cyril, bah c'est fini, c'est Cadix, c'est Stéphane Bern, donc c'est bien. Franchement, t'as qu'à jouer dans un téléfilm, toi aussi, Samuel Etienne. Est-ce que j'ai critiqué le jeu d'acteur de Stéphane Bern? Est-ce que j'ai critiqué le jeu d'acteur de Stéphane Bern? Pas du tout. Je trouve qu'il joue merveilleusement bien dans cette scène. Mais on voit bien qu'il y a des trucs qui ne fonctionnent pas. Hein. La règle des 180 degrés que tout le monde connaît, par exemple, c'est. Voilà, je vous l'expliquerai une autre fois. Ça va pas. Hein. Voilà. Ça ne va pas du tout. Voilà. Va voir sur internet la règle des 180 degrés. C'est très bien expliqué, dit Crozix TV, hein, aux gens qui ne savent pas de quoi il s'agit. Parce que moi, je sais. Voilà. Bon. Pourquoi on est sur ça déjà? Je ne sais plus. J'ai déjà perdu le fil. Tout va bien. Je suis en pleine forme. 30 minutes qu'on est ensemble. Je ne vous ai pas dit un mot de l'actualité. On est sur un bon stream. Je fais ma publicité grâce à Friquetosaur. Je ne pouvais pas regarder en direct vendredi soir l'hebdo Étienne, mais j'ai regardé le replay hier. C'est génial. J'ai trouvé les échanges passionnants, l'ambiance très cool. Merci beaucoup, cool concept. Hâte d'être à ce vendredi. Joyeux anniversaire à Malo. Yes. Ouais. Savez-vous qui sont les invités du numéro 2 de l'hebdo Étienne? Savez-vous? Non, vous ne le savez pas. Moi, je le sais. Vous ne le savez pas. Moi, je le sais. Je le dirai mercredi. Je le dirai demain soir. Voilà. Marie Drucker, Malo, ça tente. Vous voulez voir qui? Non. Michael Jackson et Pikachu. Alice Lucet. Ronan. Alice Lucet. Soral, Dieudo, Zemmour, Simon, tu taquines. Stéphane Bern, Zinedine Zidane, Astier, Bern de nouveau. David Dufresne, bonne idée. Stéphane Bern, Mimati, me dit Inata. Ok, d'accord. Non, c'est Galerite qui dit Mimati. Inata propose Anne-Sophie Lapix, Élise Lucet, Stéphane Bern. Qu'est-ce qui va vous commenter l'actualité, Stéphane Bern? Ah si, peut-être. Mais il est peut-être un petit peu occupé, non? Pogba? Ah ouais, tiens, j'aurais des questions à lui poser sur une histoire de famille, sur son grand frère, c'est une bonne idée. Étoile, pourquoi pas si Étoile a envie de commenter l'actualité. Après, je ne sais pas si les gros streamers français à don sur le jeu vidéo aient très envie de donner leur avis sur l'actu. Je les inviterai, mais je m'attends à des réponses sur le mode « Ah, c'est Samuel, moi l'actu, je sais pas. Tu sais, j'ai pas trop le temps de suivre. Et puis, on s'en fout de mon avis sur l'actu, ça n'intéresse personne. » Ou « Non, j'ai pas trop envie de donner mon avis sur l'actu. » Je ne suis pas sûr que les gros streamers, notamment de jeux vidéo, aient envie de prendre parti sur l'actualité ou de parler de l'actualité, peut-être, je sais pas, voilà. ou parce qu'ils pensent que ça n'intéresse personne, ce qui est faux, ou parce qu'ils pensent que c'est pas leur boulot. Voilà. Moi, en vrai, ça m'intéresserait, mais je suis pas sûr. Je remercie les subs, et puis on va démarrer quand même dans un instant. Uriaka2, merci pour cet abonnement. Marceau RG, merci pour cet abonnement. Wukash, merci pour ce deuxième mois d'abonnement. Chibicia, merci pour ce deuxième mois d'abonnement. Darkmoon2511, merci pour... En fait, vous avez sub pendant que j'étais parti. C'est super, ça. Mais je vais partir plus souvent. Dave Mars, merci pour ce cinquième mois d'abonnement. Mais je vais partir plus souvent. Je vais partir plus souvent. Allez, on y va. Vous êtes dans la matinée Étienne. Dans la matinée Étienne, qu'est-ce qu'on fait? On lit les journaux en prenant le temps. Hein, voilà, en général, autour de 3 heures. Hier, exceptionnellement, 2 heures parce que j'avais des trucs à faire. On lit les journaux ensemble. On en parle ensemble. On parle de la vie. Parfois, on est triste. Parfois, on est comment dire, je veux dire, le mot que je cherche, c'est comment dire, quand c'est un peu voilà, c'est bon, ouais, le réveil à 2h du matin, là se sent là un peu solennel, voilà, solennel. Puis parfois on rigole, voilà, et puis on fait ça en 3 temps. On commence par un petit sommaire en musique, 2 minutes 2 minutes 30, vous avez l'essentiel de l'actualité en musique, voilà, vous voyez les unes des journaux. Ensuite, en 20 minutes, je vous fais un sommaire un peu plus développé. Voilà, vous avez l'essentiel de l'actualité, vous en savez un peu plus. Et puis après, on lit vraiment tous ces articles. Et ça, ça nous amène à 3 heures. Voilà, on commence le sommaire dans un instant, juste après un grand merci à Willing72, à la fois pour le sub et le joyeux anniversaire à Malou qui fête ses 6 ans aujourd'hui. Angel, merci aussi pour ce prime à l'instant. Vous êtes prêts? Ce fut un... Oh, Cloquiz. Ce fut un plaisir de te voir manger au restaurant, Samuel. J'espère que tu as bien mangé. C'était quand la dernière fois que j'ai fait un restaurant? C'était jeudi dernier. T'aurais dû venir faire un petit coucou. J'étais avec mon amoureuse, je crois. Merci pour le bon anniversaire, Malou. Allez, qu'est-ce qu'on a ce matin dans l'actualité? Je vous fais un petit sommaire en images. La musique, voilà. C'est parti. Comment on appelle ça? Une masterclass. C'est-à-dire que je vous ai fait un sommaire en musique. Ok, d'accord. Un sommaire en musique. Dont le dernier article, en gros, c'est terminé sur les dernières notes de ce morceau. C'est magnifique. J'aime bien, j'aime bien ce morceau. Tu sais quoi, on va se la recaler pour la petite pause café dans une heure et demie. J'ai presque envie d'arrêter ce stream maintenant. C'est-à-dire que je ne sais pas si je vais faire quelque chose d'aussi beau aujourd'hui. C'est-à-dire ce sommaire en musique où le dernier article est venu mourir comme ça, langoureusement sur les dernières notes du morceau. Je ne sais pas. J'ai presque envie d'arrêter ce stream maintenant. Vous en pensez quoi ? Hein ? Voilà. Ouais. Willing72, merci pour ce 8e bon abonnement. Oh, joyeux anniversaire, Malo, trop gentil. Je t'ai déjà remercié tout à l'heure. Ah, c'est le problème de l'âge. Vous verrez, vous aussi, ça vous arrivera. Ouais. Je ne sais plus les noms des gens avec qui je travaille, j'oublie tout, je me répète. Voilà. Allez, maintenant, on va faire un sommaire un peu plus développé, parce que la musique, c'est bien, mais je pense aussi à ceux qui ont allé un quart d'heure, 20 minutes à me consacrer, et qui disent, bon, allez, Samuel, donne-nous l'actu un petit peu, que je fasse le malin. Que je fasse le malin devant les copains, les collègues, que sais-je, je veux dire, dis donc, tu maîtrises bien l'actu, toi. Hein. Mais d'où te vient cette connaissance aiguë, aiguisée des faits d'actualité ? D'où tiens-tu ce regard incroyablement pénétrant sur la marche du monde et de notre pays ? Mais d'où te vient cette intelligence et cette culture de l'information ? Eh bien, de Samuel Etienne, tout simplement. Mais tu ne le diras pas parce que tu vas te la raconter dans ta famille ou devant tes amis. Ça n'est pas grave, mais n'oublie pas de sub quand même. Voici un petit sommaire un peu plus développé. On lira Le Monde, que j'ai lu pour vous hier soir. Voici la une du Monde et voici l'article qui m'intéresse. Voyage il y a quelques jours, là, de 3 jours du président Macron en Algérie. Et vous savez, moi, une de mes missions, c'est de vous trouver le meilleur article, l'article le plus intéressant sur un fait d'actualité. Et parfois, sur une actu, je trouve que les... Oh, c'est incroyable. Il y a Sikrustmin qui nous regarde depuis une randonnée dans les Vosges. Folie ! Salut les Vosges. Et donc, parfois, je vois les articles sur un fait d'actu, je me dis, ah, c'est pas... Non, je trouve que ça raconte pas bien le truc, voilà. Et donc j'attends le bon article. J'ai trouvé le bon article sur la visite de 3 jours du président Macron en Algérie. C'est ce papier du Monde que je vous ai mis de côté. Et on lira un autre papier passionnant dans le Monde, parce que ces derniers jours, ces dernières semaines, on s'est lamenté en mode « Ah là 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 là, l'école en France, la crise des vocations, on va manquer de professeurs, il y a des classes qui n'auront peut-être pas de profs. À la rentrée, et ben article du Monde qui nous dit bah ouais, mais c'est comme ça aussi chez la plupart de nos voisins européens. En fait, il y a un manque de profs, il y a un manque d'enseignants, il y a un problème de vocation lié au salaire, aux conditions de travail. Dans la plupart des pays européens, c'est vrai pour la Grande-Bretagne, c'est vrai pour l'Allemagne, alors que les profs sont beaucoup plus payés qu'en France, c'est vrai dans plein de pays, et donc ça c'est le Monde qui me l'apprend. Ah non, il y a Bjarne Strup, magnifique pseudo, qui dit « Ah bah, si les voisins aussi, ça va, alors ?» Bah non, c'est pas ce que je dis. Mais du coup, ça permet peut-être de comprendre le problème. Hein ? Peut-être un peu plus. Dorena62 qui essaie de me coller. « As-tu entendu parler des insultes dans le show de Marc Rébillet envers Macron au Touquet Music Beach Festival ? Doit-on laisser un artiste provocateur s'exprimer d'après toi ? Mais mon ami, on en a parlé hier. Où étais-tu hier ? Où étais-tu hier ? Hein ? Tu nous prends pour des zozos ou quoi ? On en a parlé hier. Donc, tu peux faire le replay. Donc, on en a parlé hier de Marc Rébillet et de cette histoire. Donc, ça, c'est ce qu'on lira dans Le Monde, je vous recale la une. Et maintenant, allumage de la caméra zénitale, qui marche beaucoup mieux que la fusée de la NASA qui n'a pas décollé hier pour aller vers la Lune. Mais ça, ce serait une autre histoire. Voici la une du Parisien. Ah, bon, moi ça me concerne, je suis motard depuis toujours. À 15 ans, j'avais une petite moto. À 16 ans, j'avais une petite moto. À 17 ans, j'avais une petite moto. À 18 ans, j'avais une grosse moto. Voilà, je suis un motard. J'ai quasiment pas eu de voiture dans ma vie. Des bécanes, j'en ai eu plein. Voilà, moto, scooter, un peu tout. Donc ça m'intéresse, ça me concerne. En plus, je suis parisien. Voici que, selon le Parisien, Hidalgo lance la chasse aux scooters. Moto, mobilette, hein, tous les deux roues motorisées. Pourquoi le Figaro dit ça ? Parce que c'est la fin du stationnement gratuit, voilà, pour les deux roues motorisées à Paris. Ben, ouais, jusque-là, les motos, les scooters, payaient pas. Donc c'est dès demain, hein, jeudi. Hein. Ah, le petit V, salut les V. Dès jeudi, les conducteurs de deux roues roulant à l'essence, ah oui, parce que pour les scooters, pour les deux roues électriques, ce sera gratuit, c'est vrai, ouais, devront payer entre 2 et 3 euros de l'heure. Voilà. C'est deux fois moins cher que les voitures. Seulement deux fois moins cher, alors que ça prend moins de place quand même. Pour se garer dans les rues de la capitale, mesure destinée à lutter contre la pollution et le bruit, dit la mairie de Paris, mais qui passe mal auprès des intéressés. Donc, je dis, attention, hein, c'est pas parce que je suis motard que j'ai dit que c'était une mauvaise chose. Hein. Moi, je réfléchis sur ce truc-là. Il y a une partie de moi qui, soyons honnêtes, que ça fait chier. Hein. Puis une partie de moi qui dit c'est bien. Voilà. Donc on en parlera ensemble. Je vous lirai les arguments un petit peu des deux camps, puis vous me direz ce que vous en pensez. Oh là là, il y a les anti-motards. Les motards ne respectent pas le code de la route. L'étrange. Tant mieux, vivez-vous. Tellement marre de bruit des motos. c'est parti. Mais c'est vrai, c'est vrai. Moi-même, motard, je reconnais qu'il y a un problème avec le bruit. Non pas des motos, de certains deux roues. Et pas seulement les motos, d'ailleurs, les scooters. Voilà. Vous avez un deux roues motorisé, scooter, moto, mobilette. Voilà. Il doit émettre un bruit qui est encadré, que c'est marqué sur la carte grise, maximum temps de dB, de décibels et tout. Le problème, c'est qu'une partie des pilotes, des conducteurs de deux roues, mobilette, scooter, moto, prennent la liberté avec ça, changent l'échappement pour faire un peu plus de bruit, vroom, 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 voilà, ça donne un peu plus de sensation. Certains mettent l'argument de la sécurité en avant, à un moment donné, comme ça on m'entend plus arriver, donc voilà, j'ai moins d'accidents, bref, on ne va pas rentrer dans ce débat. Mais donc, modifient leur deux roues. Et les motos, les scooters, les mobilettes, c'est un spécialiste qui vous le dit, que vous entendez qui font du bruit, ils sont en fait illégaux. Hein, c'est tout simplement que leur pot d'échappement a été changé, et c'est illégal. Donc c'est un truc sur lequel on aurait pu partir en guerre depuis longtemps pour protéger un petit peu nos oreilles et nos tranquillités, notamment la nuit, mais pas seulement. Donc c'est un truc, mais ça n'a jamais été fait. Donc on va faire payer le stationnement des deux roues à Paris parce que ça fait trop de bruit, puisque c'est un truc qu'on dit. Ouais, bon, enfin il y avait peut-être d'autres façons, peut-être en mettant en place une répression contre les deux roues qui ne respectent pas la loi, par exemple. Hein, mais peut-être moyen de faire ça. Hein, moi, je me suis fait contrôler avec un sonomètre par une brigade anti-bruit il y a des années à Paris, donc c'est possible. Voilà. D'ailleurs, je me suis pris un PV parce que j'étais un vrai petit con et j'avais une moto qui faisait beaucoup de bruit aussi. J'en suis revenu et voilà. Et moi aussi, j'ai été un petit con en moto qui aimait que sa moto fasse du bruit. Voilà. Et puis aujourd'hui, je me dis, bah non, c'était pas très citoyen. C'était pas bien de faire ça, voilà, pour les autres usagers de la route. Voilà. Donc aujourd'hui, je le regrette un peu, voilà. Et je me suis pris un PV d'ailleurs à cette époque. Donc il y a peut-être moyen de faire autrement. Mais on aura ce débat tout à l'heure. Je suis en plein sommaire et je vois que je me suis déjà arrêté. C'est fou ça, Samuel. Arrête de te laisser emporter comme ça par ta passion de l'actualité. Et en l'occurrence ici, du moto. Le CNR va devoir convaincre. C'est le sujet qu'on lira dans le Parisien aussi. Alors qu'est-ce que c'est le CNR? Ça, c'est important. Le Conseil National de la Refondation, voulu par le président Macron, sera lancé le 8 septembre. Qu'est-ce que c'est que ce BIN? C'est un truc qui a été annoncé pendant la campagne présidentielle, je crois. Le CNR, un truc pour faire de la politique autrement. Voilà, Cyril résume très très bien ma position sur les pots d'échappement. Autrefois, t'étais un petit con et aujourd'hui, t'es un vieux con qui supporte pas que les petits cons fassent ce que tu faisais quand t'étais un petit con. Exactement. Ça, c'est moi aujourd'hui. Eh ouais, bah ouais. On change. Donc, faire de la politique autrement avec le CNR, Conseil National de la Refondation, et on réunit tout le monde, les politiques, les associatifs, les syndicats, et on discute des sujets, on en parle ensemble, on échange nos arguments, on est à l'écoute. C'est le Conseil National de la Refondation. Ah, sauf que il n'y a pas beaucoup de monde à y croire à ce truc. Ça arrive le 8 septembre et ça a pas l'air prêt. Et il n'y a pas grand monde qui a l'air d'y croire. Voilà. Pourquoi tu remplaces systématiquement Emmanuel par le président, dit Blabla Dodo? Parce qu'on n'appelle pas un président de la République par son prénom. Voilà. Parce que François Hollande, c'est pas François. Nicolas Sarkozy, c'est pas Nicolas. François Mitterrand, c'est pas François. Charles de Gaulle, c'est pas Charles, c'est pas Charlie. Voilà. Demain, si c'est Jean-Luc Mélenchon, ce sera pas Jean-Luc. Si un jour Marine Le Pen est élue présidente de la République, je dirais pas Marine. Hein ? Ben non, c'est la fonction qui prime. Voilà. Si on croit à notre démocratie, si on croit à peu près au système, à ce système, même s'il est imparfait, même s'il pourrait être vachement amélioré, même s'il a plein de défauts, mais qui est quand même mieux que d'autres régimes politiques, ben si on croit, c'est ben à un moment, on croit aussi en la fonction. Quoi. À un moment, les Français ont voté. Alors, évidemment, on peut critiquer le système électoral, le mode de scrutin, on en parle très régulièrement de tout ça, mais à un moment, voilà, il faut respecter le vote de la majorité ou qui s'est exprimé dans le cadre d'institutions à peu près démocratiques et républicaines. Et donc, ben voilà, c'est le président de la République. Président de la République. Donc moi je dis Emmanuel Macron, je dis le président de la République, je dis le chef de l'État, mais je dis pas alors Emmanuel non, Manu pas trop non plus, hein, ouais Manu, et je dis pas Macron non plus, ça je déteste. Pas parce que c'est Macron, mais je déteste, voilà. C'est comme, je déteste qu'on m'appelle Étienne, c'est très, très désagréable, très désagréable. Voilà. Donc je dis pas Macron, je dis pas, je n'appelle, j'essaie d'appeler aucun politique par son nom de famille, quoi. Je déteste ça. C'est pas, on part sur un mauvais pied, quoi. Voilà. Mon pote, ça passe. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis souvent le président de la République, le chef de l'État, le président Macron ou Emmanuel Macron, mais je ne dirai jamais Emmanuel. Et puis alors j'essaie de pas dire Macron, ce qui peut m'échapper par ailleurs. Je remercie les subs, Aka Moxley SF. Merci pour ce sub. Yaz Madoka, quel mystère derrière le pseudo. Merci pour le 7ème mois. Wheeling72, je te déjà remercie. Je le refais. C'est la 3ème fois que je te remercie quand même. Comment on t'appelle? Ah non, mais moi, c'est pas pareil. Mais moi, il n'y a pas de fonction. Vous m'appelez comme vous voulez, moi. Ah oui. Ah moi, ça n'a rien à voir. Voilà. Vous m'appelez. Donc moi, il n'y a pas de fonction, il n'y a pas de titre, il n'y a rien à respecter. C'est juste que Étienne, c'est moche. Étienne, d'abord, c'est les gens qui souvent pensent que Étienne est mon nom de famille. Alors, ça, c'est jamais agréable quand t'as deux prénoms, un nom de famille qui a un prénom, et que les gens t'appellent Étienne, tu te demandes toujours, c'est parce que s'ils savent bien comment tu t'appelles en vrai, déjà. Et puis c'est très désagréable. Ça rappelle l'école. Étienne, au tableau. Tu vois. Donc ça, c'est très agréable. Vous m'appelez Samuel, vous m'appelez Sam, vous m'appelez Papy Sam, vous m'appelez Monsieur Chibre, vous m'appelez comme vous voulez. Voilà. Chibre ou Monsieur Chibre? Monsieur Chibre. Voilà. Monseigneur Étienne, oui, bien sûr. Oui. Président? Non, pas pour l'instant, non. Non. Monsieur Chibrolo, oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Pierre, je t'attendais. Voilà. Chevalier. Oui, appelez-moi. Non, appelez-moi en toute simplicité. Appelez-moi chevalier. Merci Lokesa71 pour ce très gentil message et pour le sub. Car je suis chevalier. Oui. Des arts et des lettres depuis, je sais pas, un an ou deux ans, je sais plus. Pff, chevalier des arts et des lettres. La blague. Bon, on continue le sommaire. Rappelez-moi chevalier, ça ira très très bien. Donc, je prends la croix, sobriété, la France au pied du mur. On parle beaucoup d'écologie, d'environnement, et tant mieux en ce moment, et de crise énergétique, et peut-être de pénurie de gaz et d'électricité en France dans les prochains mois, pendant l'hiver. Donc voilà, nous voilà au pied du mur, nous dit la croix. Sobriété, l'exécutif prépare les entreprises, les ménages à économiser l'énergie pour éviter la pénurie cet hiver, sinon ça va chier. Elisabeth Borne évoque pour la première fois un possible rationnement. On voit bien qu'on essaie de nous faire peur ou nous faire prendre conscience d'un truc. On se penchera sur justement la stratégie du gouvernement en la matière pour éviter cette pénurie. Et il y a un article que je trouve, mais alors passionnant dans la Croix. On est dans le sommaire, donc on ne lit pas l'horoscope pour l'instant. Justice climatique, comment répartir les efforts? Ça, c'est pour moi, c'est le débat du moment, c'est dans la croix. Justice climatique, comment répartir les efforts? Bon, je crois qu'on est tout le monde est d'accord. Aujourd'hui, on a pris conscience de l'urgence climatique. Il faut prendre des mesures pour éviter que ça nous pète à la tête. Qui doit faire des efforts, hein? Alors là, c'est là où les divergences commencent. Hein? Est-ce que c'est les plus gros? Est-ce que c'est les plus riches? Est-ce que c'est les grosses entreprises? Est-ce que c'est les gros états, les grosses économies et pas les petits, hein? Est-ce que c'est les plus nombreux? Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que? Voilà. Comment répartir les efforts? C'est une question centrale dans l'actualité. Et la croix, tiens, voilà, il y a Yeshne qui dit pas les citoyens. Ok. D'autres qui disent tout le monde. Ok. On fera un sondage là-dessus. L'opinion. Tiens, sur ce thème justement, l'opinion qui est un journal libéral, très pro-entreprise, voilà, nous dit, voilà que la gauche en France, eh bien, utilise la question écologique pour faire de la politique. Voilà. écologie, la lutte des classes recyclées. Alors ça, c'est une lecture de l'opinion là-dessus, très éditorialisée. Gauche radicale et écologiste réactive le combat contre les riches, sous couvert de lutte contre le réchauffement. Voilà. Si Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon, tiens, je viens de dire Mélenchon, alors je déteste dire ça. Ah, si Jean-Luc Mélenchon lit cet article, il va être en PLS. Les symboles qu'il cible n'ont qu'un rôle mineur dans le changement climatique. Donc ça, c'est une lecture qui est pas de gauche. Hein. Oui, bah oui, il y a Migator Back, opinion un petit peu de droite là-dessus. Bah oui. C'est pas une info hein, que l'opinion est plutôt. C'est marqué, bordel. Au quotidien libéral, voilà, ils sont économiquement à droite et puis politiquement, ils sont pas trop la France insoumise, quoi. Mais c'est ça qui est sympa, c'est de multiplier les regards pour comprendre les arguments de tous les camps. Vous en pensez quoi ? Tiens, ça c'est bon ça. C'est vrai ça ? C'est vrai ce que dit le Figaro ça ? Est-ce que la France est de plus en plus à droite ? Il y a une étude de la Fondapol. Voilà, laboratoire d'idées, qui a lu le Figaro, et qui dit deux choses. Il y a une montée du vote protestataire en France, à gauche comme à droite, tout particulièrement à la droite de l'échiquier politique, et la France serait en colère déjà, et de plus en plus à droite. C'est vrai ça ? Vous êtes de plus en plus à droite, vous ? On va lire ce papier, on va voir ce que Le Figaro entend par la droite déjà, parce que la droite c'est quoi ? C'est quoi la droite ? LR, bon, LR, les Républicains c'est de droite. Macron c'est de droite, Macron ? C'est de droite ou c'est pas de droite ? Rassemblement National, Marine Le Pen, Éric Zemmour, Reconquête. C'est de droite ? C'est de droite, c'est pas de droite ? En fait ça dépend ce qu'on entend par droite. Ah ! On lira ça. Voilà, par exemple, il y a quelqu'un qui dit le PS, c'est de droite, par exemple. Ouais, c'est le curseur, il peut être mis... Il y a des gens qui pensent très sérieusement que le PS, c'est de droite. Hein. Je suis sûr qu'il y a même des gens qui pensent que Mélenchon, c'est de droite, parce que c'est pas encore assez, oui hein. Voilà. J'adore ça. C'est parti dans le chat, là. Allez, chauffe, Marcel, chauffe. J'adore. Ouh là, je me calme d'un coup, parce que... Là, on est sur un truc un peu inquiétant. Est-ce que cette centrale nucléaire ukrainienne va nous péter au nez ? La centrale de Zaporijia. C'est une centrale qui est contrôlée par les Russes aujourd'hui. Voilà. Et il y a quelqu'un qui travaille sur place. Alors, les techniciens ukrainiens continuent à travailler sur cette centrale nucléaire pour qu'elle continue à produire de l'électricité, puis éventuellement pour qu'elle pète pas. Voilà. Et il y a un technicien sur place qui dit « Si quelque chose se passe ici... » Merci, Sowilo, pour le très gentil message. Toute l'Europe sera touchée. Bombardement quotidien. Salariés terrorisés et épuisés. Quelqu'un qui a mis le... Il y a Gandalf qui a mis le mode émote dans la salle, dans le chat. Gandalf, t'as glissé sur ta souris ou quoi ? Gandalf, t'as glissé sur ta souris ou bien ? Qu'est-ce qui se passe ? Je fais coucou à mes amis les modos. Salut Francis, nouveau modérateur. On a accueilli 4 nouveaux modérateurs là récemment. Pas parce que les autres faisaient pas leur boulot, c'était génial, il n'y avait rien à dire. Mais ils avaient envie de nous rejoindre, et bien ils nous ont rejoints. Gandalf, un habitué. Julo, il est là. Ça va Julo ? Les petits soucis. La fille du Père Noël. Oh, comment vas-tu ? Et petit dragon vert de rage. Et puis Nightbot, bien sûr, notre ami à tous. Voilà. Emotonly. Donc la centrale, voilà, est-ce qu'elle va nous péter au nez ? Alors, reportage de l'envoyé spécial de Libération en Ukraine où plane toujours le risque de catastrophe nucléaire. Voilà. On est à la merci de quoi ? D'une erreur de calcul. Si à un moment vous voulez un peu flipper dans la matinale, dans la matinétienne, ben vous lisez ça avec moi. Voilà. Merci Nacre26 qui offre un abonnement à la communauté et précisément à Caniche Royale. Et là, j'ai envie de savoir ce qu'il y a derrière ce pseudo Caniche Royale. T'as envie de savoir. Ah ! Bientôt, on va tous rouler en voiture chinoise électrique. Non, j'exagère. Mais les échos nous disent ce matin que l'automobile chinoise électrique, le mot n'est pas écrit, mais c'est électrique, est à l'assaut de l'Europe. Déjà, les échos nous expliquent que la première Le numéro 1 de la voiture électrique, c'est pas Tesla. C'est pas Tesla. C'est une marque chinoise, sans doute pour ses ventes sur le marché intérieur chinois, qui s'appelle. Vous savez comment elle s'appelle, la marque numéro 1 au monde des voitures électriques? Vous savez comment elle s'appelle? Devinez. Devinez, devinez. Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle BID. Ouais. Mister Reinhardt. Ouais. BID. BID. Elle s'appelle BID. Voilà. Et pourtant, c'est une marque qui a du succès. Alors qu'elle s'appelle BID. Alors qu'elle a du succès. BID. Tout le monde a la ref. En fait, ça s'écrit BYD, mais ça me faisait marrer. Donc, BID, devenu numéro 1 mondial de la voiture électrique devant Tesla, lance simultanément 3 nouveaux modèles cet automne. D'autres comme Geely, Great Wall, la grande muraille de Chine, je kiffe, ou SAIC affichent de grandes ambitions sur le vieux continent. Le vieux continent, c'est nous. Le grand défi sera d'installer des marques aujourd'hui inconnues. Donc, le dossier des échos très intéressant que voici, qui nous dit en fait que bon, bah voilà, les constructeurs automobiles chinois, notamment de voitures électriques, ont fait le tour du marché intérieur. Ils n'arrivent pas à vendre autant de voitures qu'ils voudraient. Donc, ils ont décidé de partir. Ah, BID, c'est Build Your Dreams. Ah ouais. Ah, la marque BID, c'est Anthony qui me dit ça. C'est Build Your Dreams. Trop bien. Et donc, les constructeurs chinois ont décidé de partir à la suite du marché européen. Voilà. Et avec des arguments assez convaincants, notamment sur les prix. Les prix. Voilà. Il y a Frankie Fox qui dit « Tesla casse les prix avec son dernier modèle 49 900 euros. » Il y a que moi qui trouve que c'est trop cher les voitures. 49 900 euros, c'est un prix cassé ça? Alors moi, là-dessus, je suis un vieux machin. À mon époque, quand j'ai commencé à rouler, les voitures, ça avait un certain prix. Mais en gros, ben voilà, ça allait quoi, t'économisais un petit peu, voilà, tu pouvais t'acheter un truc qui roulait d'occasion, ça le faisait quoi. Mais aujourd'hui, on arrive à dire que 40 900 euros, c'est un prix d'appel pour une voiture. 40 900 euros, hein. Sérieux. Moi, je viens d'acheter ma première voiture depuis très longtemps là, pour promener un peu la famille. J'ai mis 16 000 euros dedans, hein, d'occasion. Voilà. Bah, ça m'a fait mal. Hein. Je trouve ça trop cher. Voilà. Même 16 000 euros. Voilà. Je trouve ça trop cher. Je trouve que c'est trop cher la voiture. Trop cher. 40 900 euros, c'est un prix d'appel. 16 000 euros, c'est déjà beaucoup d'argent. Voilà. Pour moi, une voiture, ça devrait coûter 4 000 balles, 5 000 balles, max. Max. Qu'est-ce que j'ai pris comme voiture? Oh, c'est super indiscret. Non. En France, on parle pas d'argent, on parle pas de voiture. Parce qu'après, on dit, ah oui, Manon, Samuel, t'as acheté un SUV. Ah, c'est pas bien, t'as acheté un SUV chinois, c'est pas bien. T'as acheté un SUV chinois qui roule au charbon. En plus, et vraiment ça c'est pas bien, et vous allez me juger. Vous allez me juger, je vous connais. Donc je ne vous dirai pas que je roule avec un SUV chinois qui roule au charbon. Je ne le dirai pas. Parce que je vous connais. Hein. Ça va juger après. Hein. Donc, voilà. Donc je ne vous dirai pas. Je vous dirai pas ce que j'ai acheté. Je vous dirai pas. Ouais. Nacre 26, merci pour l'abonnement que tu as offert à la commu. Et puis, hier. Bah hier, comme le stream a duré 2 heures, c'est-à-dire autant dire 5 minutes, c'était un stream très court parce que j'avais un rendez-vous à midi, eh bien, j'ai pas pu vous lire. Ça y est, c'est parti. Blabla, dodo, tu vois. Tiens, je voulais pas dire ce que j'ai acheté. D'ailleurs, j'ai toujours pas dit. Il y a blabla, dodo qui me dit « Pourquoi t'as acheté un SUV ? Pourquoi t'as acheté un SUV ? Hein ? Pourquoi t'as acheté un SUV ?» Voilà. Bah oui, voilà. Bah voilà, j'ai acheté un SUV chinois qui roule au charbon. Voilà. Voilà. Si vous roulez en Paris et que vous voyez un truc, une voiture avec une cheminée et un grand panache de fumée noire, c'est moi. Voilà. Voilà. Sauf que j'ai mis des vitres teintées. Vous ne saurez pas que c'est moi. Bon, pardon. Bon, il n'y en a pas parlé de l'affaire Paul Pogba. Donc le footballeur, hein, l'attaquant, le champion du monde. Et cette histoire, elle est dingue. Donc, on lira l'article dans l'équipe d'hier qui est très bien, puis vous voyez que c'est même la une de l'équipe ce matin, la Pogba affaire. Voilà. Dans cette affaire, vous avez du foot, vous avez la famille, vous avez l'argent. Voilà. Le truc, il est surréaliste. Voilà. C'est avec son... Il est pas attaquant? Ah non, il est milieu de terrain. Ouais, je connais rien de toute façon. Il serait gardien de but, je dirais attaquant. Je connais rien. Il y a son frère qui l'aurait fait chanter, qui lui demande des millions et tout. Voilà, c'est surréaliste. Voilà. Là, on a bien mesuré que je connais bien le foot, moi. L'attaquant Pogba. Je n'y connais rien, je connais rien au foot. Je connais rien au foot. Je fais mine, mais en fait, je connais rien. Voilà. Pour le sommaire. Pas mal, hein. Il y a de la matière. Hein. Et bien maintenant, que nous avons fait notre sommaire en musique, que nous avons fait notre sommaire un petit peu développé, et bien on va lire les articles. Le sommaire, il est 11h, bah ça va, ça fait qu'une heure qu'on est ensemble. Hein ? Comme je le dis souvent, notamment aux invités que je reçois dans l'hebdo Étienne, et qui ne connaissent pas forcément Twitch, je dis, Twitch, c'est un média du temps... J'ai une très belle phrase pour... Je dis, Twitch, c'est un média du temps long. C'est un média où on prend le temps. Où on prend le temps d'échanger. Je leur parle comme ça. D'échanger. De se comprendre. Voilà. D'expliquer nos positions. On n'est pas forcément d'accord, mais on échange nos arguments. Voilà. Calmement. Chill. Voilà. Et puis on fait des pas de côté. Je fais beaucoup de pas de côté. Je vous ai raconté que j'ai acheté un SUV chinois qui roule au charbon, je ne sais plus. Voilà. Et donc on prend le temps. Et je leur dis, alors parce que mes invités que je veux convaincre de venir à la maison, et ils me demandent, alors, ça dure combien ton émission sur la Switch, sur la Switch là? Et je leur dis, avant de leur répondre, tu sais, Twitch c'est un média du temps long, c'est un média où on, etc., etc. Et donc, ça dure combien ton Switch là? Ça dure quoi, une demi-heure, un quart d'heure, hein, 35 minutes, hein? Le temps info, le temps média, le temps radio, le temps télé qui va trop vite. Et je leur dis, non, c'est... 3 heures. T'as dit quoi? 3 heures. 3 heures. 3 heures un vendredi soir. Donc je leur dis au dernier moment. D'abord, je les invite. Et une fois qu'ils m'ont dit oui, je leur dis après. Ou je leur dis pas d'ailleurs. C'est-à-dire que Patrick Pelou la semaine dernière, Salomé Saké et Julien Pin, je leur avais pas dit. Je leur ai dit venez, puis voilà. Et Patrick Pelou, en arrivant à la maison, que je connais depuis très longtemps, il m'a dit donc il arrive à 20h et il me dit bon ben j'ai un truc à faire vers 9h30. Patrick, Twitch, 1h30, je dis rien, je fais le mec qui a pas entendu quoi. Je l'ai gardé 2h45, je crois. Voilà. Twitch, c'est un média du temps long, c'est un média où on prend le temps. Merci Confetti pour ce Prime. C'est mon amoureuse qui m'envoie un message. Ne lisez pas. Hélène est en train de préparer un anniversaire surprise pour Malo. Elle a besoin de moi pour gonfler les ballons. Donc elle me demandait quand je finissais le stream de ce matin. Et je suis en train de lui dire, tu sais chérie, Twitch, c'est un média du temps long. C'est un média où on prend le temps d'échanger nos arguments. Alixiage, merci pour ces deux abonnements que tu as offert à la commu. Julo, merci pour ton prime. Glory Hammer. Quoi, c'est le marteau de la gloire, c'est ça? Merci pour ce... très gentil message, et le troisième mois d'abonnement. Et merci à Loulou722 pour ce sixième mois d'abonnement. C'est vrai que ça passe vite. Sinon, tu gonfles les ballons en live, c'est bon. Ouais. C'est vrai. Un stream gonflage de ballons. Ouais. Bon, on va voir. J'ai mon audience de questions pour un champion. Quelle journée d'hier? Attends, suspense. Est-ce qu'on est les meilleurs? Question pour un champion, excellente émission sur France 3, c'est une nouvelle émission, je sais pas si vous connaissez. Ouais, ça va. Est-ce qu'on est les meilleurs? Ah non, il y a TF1 qui m'a grillé là. Foiré. Voilà, on y va. Vous êtes prêts? Allez, on lit les journaux, c'est parti. D'abord le Monde, je vais redevenir un petit peu sérieux. Là c'est le moment où je suis un petit peu sérieux. Paf. Là on lit le Monde. Hop. Je vous le disais, je cherchais depuis quelques jours le bon article sur le déplacement du président Macron en Algérie. Bon, le déplacement, il est passé déjà. Mais c'est pas grave, parce que je préfère ne pas vous lire un article si je le trouve pas à la hauteur de l'événement, plutôt que vous lire du caca. Voilà. Et j'ai trouvé un bon article, enfin, dans Le Monde d'hier après-midi. Tomiki 3, merci pour le Prime. Mathis 00, merci également pour le 5e mois et l'anniversaire à Malo. Les avancées d'Emmanuel Macron en Algérie. Parce que Le Monde estime que le voyage du président Macron s'est plutôt bien passé. Dead Melagan, il a été hué, insulté, mais ça on ne vous le dira pas. Oh, on a juste passé 20 minutes là-dessus hier. Voilà. Donc on ne le dira pas, mais j'en ai parlé pendant 20 minutes hier. Il n'y a pas de quoi. La visite d'amitié a permis des progrès dans plusieurs secteurs, dont une hausse des livraisons de gaz. D'ailleurs, l'article en parle du fait qu'il a été hué et insulté à un moment. C'est dans l'article, mais ça, les médias vous en parleront pas. L'Airbus A330 d'Emmanuel Macron a donc quitté Alger samedi, mais la question gazière est restée à l'ordre du jour, donc déjà la question du gaz, des échanges franco-algériens durant le week-end. Qu'est-ce qui se passe sur la question du gaz ? Bon, vous savez que la France a besoin de gaz, puisque voilà, avec le gaz qui ne vient plus assez de la Russie, donc certains ont dit, en voyant ce déplacement en Algérie, qui est un pays producteur du gaz, ah là là, Macron, il va un peu à la soupe, il va chercher du gaz. L'Elysée a dit pas du tout, c'est pas du tout l'objet. Officiellement, pas de discussion sur le gaz. Il y avait quand même la patronne d'Engie, l'entreprise française du gaz, qui était du voyage, donc quand même un petit peu. Et puis l'opposition s'est un peu moquée du président Macron en disant, bah, vous voyez, il est parti en Algérie et puis il n'a pas ramené de gaz. Peut-être que, dit Le Monde, dans les prochaines heures, on va voir, les prochains jours, il y aura peut-être des annonces de livraison de gaz algérien à la France, c'est ce que dit cet article. Des discussions sont actuellement en cours entre le groupe français Engie, qu'est-ce que je vous disais, la patronne du groupe était du voyage, et le groupe pétro-gazier public algérien qui s'appelle Sonatrach. Elle porte sur une augmentation des livraisons de gaz et de GNL, ce qu'on appelle le gaz liquéfié algérien à la France, dans une proportion que les deux pays à ce stade n'évoquent pas encore officiellement. Un accroissement de 50% du volume des exportations algériennes est sérieusement envisagé. Voilà. Donc, est-ce que c'est ce qui va être annoncé dans les prochains jours ? Ce serait politiquement plutôt positif pour le président Macron de pouvoir dire dans quelques jours qu'il a obtenu une augmentation de 50% des livraisons de gaz algérien vers la France, sachant qu'aujourd'hui, la part de l'Algérie représente entre 8 et 9% du gaz qui est consommé en France. Des annonces seront faites prochainement, a dit par exemple Olivier Véran dimanche, le porte-parole du gouvernement. Premier exportateur de gaz naturel en Afrique, l'Algérie fournit environ 11% du gaz consommé en Europe, ce qui n'est pas rien, contre 47% de la Russie. Point d'orgue, donc hop, après j'enchaîne, je passe à autre chose, juste sur le gaz. Nous, hier, dans la matinale de France Info avec David Delos, le spécialiste économie, on s'est penché sur la question. Et David, là-dessus, il disait, le problème, c'est que l'Algérie est au maximum de ses capacités de production. Donc David disait, je vois pas bien comment l'Algérie pourrait fournir plus de gaz à la France, sachant qu'ils sont au maximum de leur production. Ils peuvent augmenter, mais à peine. Voilà, à moins par exemple de cesser de livrer un autre client. Donc ça c'est intéressant, on le suivra dans les prochains jours. Bon, ça c'est la question du gaz à suivre. Par ailleurs, point d'orgue, je continue l'article, d'une visite d'amitié, c'était comme ça qu'officiellement elle était décrite 2-3 jours, commencée le 25 août, le président algérien Abdelhamid Tebboune et son homologue français Emmanuel Macron ont préalablement scellé samedi la réconciliation entre Paris et Alger, en signant une déclaration commune, donc il y a un texte qui a été signé, appelant à une nouvelle dynamique irréversible pour leurs relations bilatérales après, vous le savez peut-être, des mois de brouille diplomatique. Vendredi, les deux présidents se sont assis autour d'une table avec leurs chefs d'état-major respectifs et du renseignement extérieur aussi. Et ça, d'avoir les deux présidents des deux pays avec leurs chefs d'état-major, donc on parle de l'armée, et du renseignement extérieur, c'est du jamais vu depuis 1962, écrit Le Monde, 1962, c'est l'indépendance de l'Algérie, bien sûr, ce sont les accords d'Évian, je pense que vous le savez. Premier signal important, envoyé, la présidence algérienne a même diffusé les images de cette rencontre sur son site internet. Les chefs d'État réuniront les responsables des deux pays sur le modèle de cette réunion dite de Zeralda du 26 août, chaque fois que nécessaire, annonce ce texte, cette déclaration conjointe. Ce texte dans lequel les deux pays s'engagent par ailleurs à inscrire leurs relations dans une dynamique de progression irréversible, après des années de hauts et de bas diplomatiques, ambitionne de graver dans le marbre un apaisement des mémoires avec notamment la création d'une commission mixte, ça c'est important, d'historiens français et algériens, et l'ouverture des archives de la colonisation, parce que c'est l'une des choses importantes qui rend difficile les relations entre les deux pays, bien sûr, et de la guerre d'indépendance. Les deux pays s'engagent aussi à coopérer sur la question des mobilités, alors ça c'est un nouveau terme, pour en fait parler de la question de l'immigration, un nouveau terme euphémisant choisi pour tenter de faire oublier ceux qui ont tant fâché dans un passé récent sur la question des visas et des reconduites à la frontière. Qu'est-ce que dit cet article ? Bah, que, contrairement à ce qu'on a pu entendre dans la bouche de l'opposition notamment, la visite du président Macron s'est pas si mal passée que ça. Il n'y a pas des énormes trucs qui ont été annoncés, mais entre deux pays dont les relations diplomatiques sont notoirement très compliquées depuis 1962, ce communiqué commun est plutôt positif. Voilà. Pas plus que ça. Macron ne dit pas que... le Monde ne dit pas que le président Macron a obtenu des folies. Mais le début sur le gaz est assez intéressant parce qu'effectivement, si la France a réussi à obtenir des livraisons supplémentaires de gaz algérien à venir dans les prochaines semaines, les prochains mois, c'est vrai que économiquement, énergétiquement et politiquement pour le président Macron, ce serait positif. Attendons les annonces, mais si vous voyez une annonce dans les prochains jours là-dessus, ben vous vous rappellerez de cet échange qu'on a eu. Alors, je voulais un petit peu sur la question du gaz algérien et de l'Algérie. Martin, RFN, merci beaucoup pour cet abonnement. Comment ? Alors, vous savez que moi, je suis un vieux machin, et souvent, il y a des chiffres dans vos pseudos qui sont des rêves de gamer. Le 3, par exemple, le 3, j'ai B3U la menace, par exemple. Comment je dois prononcer le 3 dans un pseudo ? Ça, c'est un truc que j'aimerais savoir, parce que j'écorche toujours. Comment je dis B3U la menace ? Ah, c'est un E. Ah, donc ça donne be la menace. Ah, c'est un E. Et pourquoi c'est un E le 3 alors ? Ah, c'est un E à l'envers, putain. Ah, 30 août 2022, ça y est, c'est Samuel-Étienne. Ok. Ah. Donc c'est be la menace. Tomiki, 3. Tout le monde sait que 3 c'est un E. 4 c'est A. Un 4 c'est un A. D'accord. Ah, langage lit. Lit speaking. Dans Google, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Lit speaking ? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, il y a même des translators. Qu'est-ce que... Je découvre un univers. Lit speaking. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a une page Wikipédia. Bon de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Le lit speak. Ah, de l'anglais Elite Speak, littéralement langage de l'élite, est un système d'écriture utilisant les caractères alphanumériques d'une manière peu compréhensible pour le néophyte, qu'on appelle noob, donc moi je suis un gros noob en fait, pour s'en démarquer. Le principe est d'utiliser des caractères graphiquement voisins, des caractères usuels, par exemple le 5 au lieu de S, le 7 au lieu du T, ou de façon moins évidente, ah d'accord, le L underscore L au lieu de U et de I avec un petit truc au lieu de K. Ah, d'accord. Ce système d'écriture se retrouve chez certains geeks technophiles. C'est vous ça, non ? Utilisateurs de jeux en réseau. Ah oui. C'est vous les jeunes gens dans la chambre en train de jouer aux jeux vidéo toute la journée. D'accord. Okay. Et des démos scénarios, ce truc. Ok. Donc comme je vous le disais, donc le... Voilà, c'est un exemple que je prenais. Le 3, c'est E, par exemple. Je crois que tout le monde connaît Lit Speak, ça. Gamers. Me voilà plus savant. Ok, merci, c'est cool. Voilà. On est parti de l'Algérie sur le... Je remonte pour trouver des commentaires sur l'Algérie, parce qu'on est parti sur autre chose. Ah bah, trop tard. J'ai eu trop de... Voilà, tous vos commentaires sur le Lit Speak. Ça a chassé tous les messages sur l'Algérie. Voilà. Santi Ruiz qui, de façon très gentille, me dit « C'est très intéressant pour moi qui écoute depuis l'Argentine. » Oui, c'est très gentil, mais bon, je raconte quand même pas mal de conneries. Hein, quand même, voilà. Merci, Yazachan qui vient d'écrire un message qui fait 15 pages. D'abord, merci pour ton sub et qui écrit « Samuel, faut que je te remercie. » Ouh, c'est un gentil message. « Je viens juste de sortir d'un entretien téléphonique avec une école. Suite au sujet sur les écoles depuis 2 jours qui sont en crise car il manque de personnel, je me suis renseigné. » Et je me suis inscrite en tant qu'assistant pédagogique. On m'a appelé pour savoir quand je peux commencer suite à un désistement. Je crée des emplois. Je crée des emplois. La prochaine fois que vous parlerez de la baisse du chômage dans notre pays, vous pourrez dire c'est grâce à Samuel. C'est vrai qu'on a, on a parlé effectivement des crises des vocations, de la crise que rencontre l'éducation nationale pour embaucher des enseignants. Ah ben leurs achats, je suis super content. Nom de Dieu, je crée des emplois. Il n'y a pas de folle qui écrit Samuel plus efficace que le gouvernement. Bientôt le jet privé. Ouais, j'ai pas acheté un jet privé, j'ai déjà un SUV chinois qui marche au charbon. Alors. Transition. Bim ! Dans le monde. Ha ! La pénurie d'enseignants, fléau européen. Voilà. Pff. Quand je fais des transitions comme ça, franchement, j'ai envie d'arrêter. Je me dis, c'est comme un sportif, comme un champion. À un moment, il faut arrêter quand t'es au top, quoi. Quand t'es au top. Qu'est-ce que... Regarde, il y a Zachan qui dit, Sam, grâce à nos échanges, je me suis renseigné, paf, je vais être embauché en tant qu'assistant pédagogique. Voilà. Et je fais une transition, paf. La pénurie d'enseignants fleu européen. J'ai envie de tout arrêter. J'ai envie d'arrêter Twitch. J'ai envie d'arrêter France Info. J'arrête Question pour un champion. Je vais à la pêche, sérieux. Je m'achète une canne à pêche, j'achète une petite radio, des bouquins. Je vais au bord d'un étang. Voilà, je fais du Noki, je mets même pas l'hameçon, tu vois, je balance ma... Hop, je suis tranquille, voilà. Franchement, j'ai envie d'arrêter là. J'ai envie d'arrêter. Là, j'ai envie d'arrêter. Là, franchement, là, j'ai envie d'arrêter. À quel moment je peux être plus brillant que là, quoi ? Quel moment ? Plein de gens qui parlent de fruits et légumes dans le chat, melon, pastèque. Ça n'a rien à voir avec notre discussion. On parle d'éducation nationale ? Vous me parlez de fruits? Un peu d'attention. La pénurie d'enseignants fléau européen. Ce phénomène aux causes multiples touche aussi les pays où le salaire est plus élevé qu'en France. Bon, je redeviens sérieux parce que c'est important. Parce qu'on a pas mal lu ensemble ces derniers mois et ces derniers jours des articles sur la... La crise de l'école, notamment du manque d'enseignants, de la pénurie d'enseignants, de la baisse des vocations, des problèmes de salaire, des problèmes de conditions de travail. Et c'est essentiel parce que l'éducation dans un pays, c'est vraiment... c'est au cœur de tout, quoi. Et j'apprends dans le monde, et ça ne veut pas dire que c'est rassurant, ça ne veut pas dire que ça doit nous rassurer, et bien que c'est pareil chez la plupart de nos voisins européens. Lisons cet article qui est vraiment passionnant, en même temps que je lis un message de mon rédacteur en chef de la matinale de France Info, qui m'écrit, donc si Malik m'écrit, c'est que c'est important. Oh, on se félicite. On se félicite de quoi? Des audiences? Parce que à 9h, j'ai les audiences de Questions pour un champion, puis à 11h, j'ai les audiences de France Info. Je peux vous dire qu'on est vraiment super fort. Non, bah du coup, l'équipe est contente. Si l'équipe est contente, je suis content. À l'heure où la France se demande pourquoi le plus beau métier du monde, je suis assez d'accord, c'est un des plus beaux métiers du monde. Selon serait le mot du ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye ne fait plus recette, voilà peut-être de quoi se consoler, j'ai envie de dire, bah non, ça ne nous console pas. La crise du recrutement des professeurs est un problème dans presque toute l'Europe et même au-delà. Et ça, je ne le savais pas. Les 4000 enseignants français qui manquent à l'appel à l'issue des concours du printemps 2022 semblent un moindre mal par rapport aux situations souvent préoccupantes des pays voisins. En Allemagne, les chiffres. Donc en France, par exemple, il y a 4000, au dernier concours, il y a 4000 postes, ou plus précisément, il y a 4000, oui c'est ça, oui à l'issue des derniers concours, là, il y a 4000 postes qu'on n'a pas trouvé preneurs. Ben, regardez les chiffres. En Allemagne, 4400 postes étaient vacants, là, avant la rentrée, juste dans le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, qui est le plus peuplé du pays, mais quand même, 4400 juste pour ce Land. En Italie, pays confronté à un fort vieillissement de sa population enseignante, 150 000 postes sont désormais occupés par des remplaçants au statut précaire. Allemagne, Italie, on continue. Les Anglais, les directeurs d'établissement en Angleterre, 95% d'entre eux disent peiner à recruter. 72% font appel à des remplaçants pour couvrir des postes censés être permanents. Pendant que la France s'échine à trouver des contractuels et monte des formations express à quelques jours de la rentrée, les autres pays européens bricolent, eux aussi, on n'est pas tout seul. Tant bien que mal, les deux tiers des directeurs britanniques font appel à des professeurs qui ne sont pas spécialisés dans la matière qu'ils enseignent. En Suède, même chose, de nombreux professeurs embauchés ne sont pas qualifiés pour les matières et les cours qu'ils donnent. Qu'est-ce que tu fais ? Géographie ? Impeccable, prof de maths, t'as 15 jours, c'est parti. Comment en est-on arrivé là ? La responsabilité première est souvent imputée au salaire. Rappelle le monde, ça c'est une évidence. C'est une évidence. Même si la comparaison des différentes situations montre qu'il n'est pas le seul paramètre, et ça c'est important aussi, puisque en fait le monde nous parle de la situation en Allemagne où les salaires sont beaucoup plus importants pour les profs qu'en France, et bien ils ont quand même des problèmes. Au Royaume-Uni, la lente érosion de la rémunération est largement démontrée, donc là le pouvoir d'achat en Angleterre, les profs ont beaucoup perdu, donc là il y a un lien qui est évident. En Italie, les salaires sont désormais considérés comme trop faibles pour attirer des nouvelles recrues. 3000 euros brut après 15 ans d'ancienneté pour un enseignant du secondaire. Pourtant, c'est un peu plus qu'en France, en Italie. Les Allemands. Je ne sais pas si vous entendez tous les bips là, tous les ding 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 ding. C'est toute l'équipe de la matinale de France Info qui est en train de se féliciter des audiences. C'est fou ça, qu'est-ce que ça raconte ? C'est nous les plus forts. Attends, je vais leur mettre un petit message. Alors, applause, cœur. Un cœur, c'est un peu neuneux quand même. Bon, je mets juste applause. Ouais. Puis je vais être un peu genre team building. Vous êtes les meilleurs. Voilà. Voilà. Donc, les Allemands, par exemple, rémunèrent généreusement leurs enseignants par rapport à nous, ce qui bat en brèche l'idée que le seul salaire suffirait à attirer les nouvelles recrues. Donc là, il y a des chiffres qui sont donnés en Allemagne. 65 000 euros par an pour un instituteur, salaire moyen. 76 000 euros pour un professeur de lycée. Mais ça ne suffit pas à attirer les candidats vers un métier jugé peu attractif en Allemagne, notamment à cause du manque de perspectives d'évolution au cours de la carrière. La question de l'évolution pèse partout, dans une époque où le monde du travail gagne en flexibilité. Donc manifestement, il n'y a pas que les salaires. Il y a aussi la question du fait que le poste ne soit pas forcément très évolutif. Quand vous choisissez, explique un spécialiste de l'éducation qui s'appelle Éric Charbonnier, quand vous choisissez de devenir enseignant, vous savez qu'a priori vous serez peut-être toujours enseignant 30 ans plus tard, et ça pèse de plus en plus dans le choix, notamment des jeunes. Les systèmes scolaires européens ont également en commun d'accueillir des publics A. Donc on a parlé des salaires, on a parlé du côté peu évolutif du poste, on pourrait parler des conditions de travail aussi qui sont difficiles. Mais il y a autre chose, et ça je l'apprends dans le monde. Les systèmes, enfin bon, j'en prends conscience dans le monde, les systèmes scolaires européens ont également en commun d'accueillir des publics plus divers qu'avant, dans des environnements socialement plus complexes qu'auparavant. Le sentiment général est que le climat scolaire s'est dégradé depuis 15 ans, dit ce spécialiste Éric Charbonnier. Les classes sont plus hétérogènes et le métier plus exigeant, avec des demandes plus fortes de la part des familles. La pression accrue de la part des familles pèse lourdement sur les conditions de travail des professeurs. Selon une enquête Thalys de 2018, là le chiffre il est fou, 5% des enseignants en collège en France estiment valorisés par la société. 5% seulement des enseignants de collège en France estiment valorisés par la société. Mais dans l'ensemble des pays de l'OCDE, ils sont que 30%. Donc on voit qu'il y a un problème en France, mais on voit aussi qu'il y a un problème chez nos voisins. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je sais qu'il y a des gens qui connaissent très bien ce sujet dans le chat. Je sais qu'il y a des enseignants notamment, ou des gens qui travaillent dans le monde de l'éducation. Merci pour les bits, je vous lis. Alors. Erané. Je suis prof. Ce matin, je suis allé en magasin pour acheter 200 euros de fourniture pour ma classe. Je ne serai pas remboursé. Parce que l'agent de la COP manque, mais on en a besoin pour travailler. Idem pour les manuels pédagogiques. Je cherche des bouquins d'occasion pour me former. Ça a beau être le plus beau métier du monde, au bout d'un moment, ça ne suffit pas. Sildric est peut-être enseignant, enseignante. Il y a surtout un gros manque d'éducation des enfants, ça devient de plus en plus dur de les gérer. Sans compter la hiérarchie qui ne suit pas les enseignants quand ils ont des problèmes, avec un paraître de l'établissement qui est plus important que les profs. Je vous lis, hein. Il y a Dark Yoyos qui vient dans le chat et qui me dit « Salut, comment ça va? Je suis DJ, je fais des musiques. Est-ce que tu veux que je te fasse une musique gratuitement ?» Mais merci. Mais si elle est libre de droit, parce que je me suis rendu compte que j'utilise une musique soi-disant libre de droit fournie par Twitch, sauf que quand je mets mes rediffs sur YouTube, vous tapez point d'exclamation YouTube dans le chat, vous avez la ref de la chaîne YouTube, eh ben elles sont bannes, les vidéos, parce que la musique fournie par Twitch comme libre de droit, ben, elle n'est pas sur YouTube, quoi. Donc oui, ça m'intéresse vachement, tu me dis. Ok. Voilà. Intéressant ce papier, hein. Ouais. YouTube. Il y a Alikaz qui écrit « J'ai quitté le navire, perso. » Tu parles de l'éducation nationale, sans doute. « Aucune reconnaissance de qui que ce soit. Les profs sont vus comme les gens payés en vacances qui ne font pas grand-chose. » Alors que évidemment que ça n'est pas ça. Évidemment que ça n'est pas ça. Encore un message. « Cab So, mes deux parents sont enseignants. Le gros problème, ce sont les parents d'élèves qui surprotègent leur enfant et veulent toujours avoir le dernier mot. » Ah, c'est chaud. C'est chaud. C'est chaud. Bon, en tout cas, l'article du Monde est vraiment intéressant. Voilà pour le Monde. 1h29 de stream, on a lu un journal. On est bien, on est sur un très très bon rythme. On est sur un très 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 bon rythme. Je débranche ma tablette et on passe aux journaux papier. Ce que j'ai lu déjà ce matin sur France Info et sur France 2 et que j'ai ramené ici. Écologie, écologie, écologie. Hein. On jette pas, on réutilise. Voilà. C'est pour compenser un peu mon bilan carbone à cause de mon 4x4 chinois qui roule au charbon. Commençons avec le Parisien. Ah, on parle de 4x4. Eh bien, justement, moi, je vous parle justement de véhicules. Vlatipak, à partir de demain, jeudi matin, eh bien, peut-être même minuit, peut-être qu'il y a des scooters, des motos qui vont se prendre des PV à minuit une. On ne pourra plus stationner gratuitement son deux roues motorisées, sa moto, son scooter, sa mobilette à Paris. Il faudra payer comme les voitures. Voilà, comme les voitures. Hidalgo lance la chasse aux scooters, titre le Parisien. Dès jeudi, donc c'est bien demain, hein, je dis pas de bêtises, les conducteurs de deux roues... Non, quel jour on est? Mais non, jeudi, c'est dans deux jours, hein. Papy Sam, on est mardi. Ouah, latre, ça va. C'est pas tout de suite, c'est dans deux jours. Dès jeudi, les conducteurs de deux roues roulant à l'essence devront payer entre 2 et 3 euros de l'heure pour se garer dans les rues de la capitale, mesure destinée à lutter contre la pollution et le bruit, mais qui passe mal auprès des intéressés. Il y a un excellent qui dit « Quoi ? Le parking qui était gratuit pour les deux roues ?» Hein, tu savais pas ? Non, à Paris, et dans la plupart des villes d'ailleurs, il y a très peu de villes, tu ne payes pas le stationnement pour les deux roues. Alors d'abord, les arguments de la mairie de Paris pour prendre cette décision. Cette mesure rétablit l'équité avec les automobilistes et incite les utilisateurs de deux roues essence à utiliser des mobilités moins polluantes. Moins de pollution dans l'air, moins de bruit, c'est mieux pour notre santé. Martel David Béliard, qui est adjoint au maire en charge des mobilités, un élu Europe Écologie Les Verts. Édito de Jean-Baptiste Isaac, qui résume bien toute l'histoire. Je vous lis, et après vous me dites ce que vous en pensez, et puis on fait un sondage. La fin de l'insouciance. Dans deux jours, les motards ne pourront plus se garer en toute tranquillité dans les 20 arrondissements parisiens. Ils devront payer, pas trop tôt, s'exclament les milliers d'automobilistes qui ne seront plus les seuls à passer à la caisse pour se parquer intramuros. Enfin, chantent piétons et cyclistes que le vroom vroom des motocyclettes et vélos moteurs révoltent. Ils sont trop bruyants, ils polluent, ils se garent sur les trottoirs, ils roulent comme des fous. Les scooteristes sont la cible idéale et tout semblant de tentatives pour défendre leur cause paraît perdu d'avance. Pourquoi ne payerait-il pas, après tout? Oui, pourquoi il ne payerait pas? Oui, mais pourquoi payer à l'heure la moitié du prix d'une voiture, donc 3 euros dans les 11 premiers arrondissements, contre 6 euros, il y aura deux tarifs, en fait, selon l'arrondissement, alors qu'ils ne prennent que le quart d'une place? Bonne question. Donc, en gros, les deux roues motorisées vont payer deux fois moins cher que les voitures, alors qu'ils prennent quatre fois moins de place. Bon, première question. Et donc le Parisien répond à cet argument. Oui, mais c'est vrai que beaucoup d'utilisateurs de deux roues sont des cadres, des professions libérales, des artisans, donc ils ont les moyens de casquer. C'est des gens qui ont des sous qui roulent en deux roues à Paris? Je sais pas, je me rends pas compte. Faudrait des études, faudrait des enquêtes. Je suis pas sûr de ce truc-là. C'est le sens de l'histoire, reconnaît le Parisien. Bon, ben, on va vers ça, effectivement. Et conclut ainsi. ne circuleront donc à Paris que les motards les plus fortunés, dont les engins ne sont pas forcément les moins bruyants ni les moins rapides, comme un péage invisible qui n'ouvre les rues qu'à ceux qui en ont les moyens. Un coup d'accélérateur à la gentrification. Les autres, désormais à pied, à vélo ou en métro, se souviendront, nostalgie coupable, du temps jadis quand ils empruntaient les voies sur berge sur leur scooter à l'heure du soleil couchant devant la Tour Eiffel et Notre-Dame. Voilà, bon, ça c'est l'édito du Parisien. Et maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. On va aller un petit peu plus loin. Amis motards ou amis qui n'aimaient pas les motards et les scooters, eh bien, parlez-vous, parlons-en, dites-moi ce que vous en pensez et on fait un sondage. Je vous lis. Cédric, merci beaucoup pour ton prêt. C'est parti. Balt, je trouve ça stupide d'un point de vue écologique. Un scooter pollue beaucoup moins qu'une voiture avec une seule personne dans l'habitacle. Il faut au contraire mettre en avant les scooters moto pour l'avenir de la planète. C'est pas vrai. C'est vrai que c'est pas optimal, mais c'est mieux que la voiture. Alors. Alors, les commentaires. IndyCase, c'est pas plus mal, ça leur évite. J'envoie un message. À mon papa. Hop. C'est pas plus mal d'IndyCase, ça leur évitera de se garer comme des débiles. Voilà, Adrien met en question l'argument du Parisien qui dit oui, ben en fait, la plupart des gens qui roulent en deux roues à Paris, c'est des gens qui ont des sous. Je pense pas, dit Adrien. Au contraire, pas assez pour payer tous les frais d'une voiture plus les annexes. Voilà, je suis pas sûr que les livreurs en scooter aient le statut cadre, dit Holler. Ouais, les vélos sont pas concernés. Bah non, Shoji. Quand je dis deux roues motorisées. Ah! Vélo électrique. Non, vélo n'est pas concerné. Ça me fascinera toujours ces Parisiens qui critiquent Mme Hidalgo constamment alors qu'ils l'ont réélu il y a 2 ans, dit le petit kiwi. Bon, 4 motos par place de voiture, vous êtes plusieurs à dire « Ouais, dis donc, ouais, Samuel le Marseillais, là. » Adnitre, hâte de voir tous ces automobilistes qui rageront de ne plus trouver de place de stationnement quand les motos iront sur leur place. Bah, Cyril, ton deux roues prend toute une place de stationnement et quand j'arrive avec ma voiture pour me garer et payer mon stationnement, je ne peux pas me garer alors que toi, tranquille, tu t'es mis là sans payer. Pop. Bah, moi, je trouve ça normal que les deux roues paient autant que les voitures pour se garer sur une place de stationnement payante. Une fois encore, des gens qui souhaitent aux autres d'en chier comme eux pour rétablir une égalité, répond Olgirius. Toujours aux citoyens de payer au nom de l'écologie, j'en peux plus, dit Gonzo. Voilà. MDR, c'est ouf comme les automobilistes, ils passent leur vie à voir le seum, dit Camille. Comment on fait pour montrer le ticket sans risquer de se le faire prendre sur un deux roues, dit Joliot. Car je crois qu'en fait, il y a des applis en fait. Tu sais, c'est des applis, ça passe par des applis. En fait, avec l'appli, il y en a plusieurs, tu payes ton stationnement directement. Et le contractuel, quand il passe sur ta plaque, en fait, et il voit grâce à l'appli si tu as payé ou pas. Mais tu n'as pas de ticket sur le deux roues, parce qu'évidemment, tu vas te le faire piquer. Sachez d'ailleurs qu'a priori, les véhicules, vous savez, qui circulent dans Paris, les voitures qui relèvent. Qui vérifie justement que toutes les voitures ont payé leur stationnement en lisant les plaques avec les caméras là, ce ne sera pas applicable pour les deux roues, notamment à mon avis parce que pour les places de deux roues motorisées qui se garent en épi comme ça, bah, la plaque elle n'est pas visible depuis la route, il faut passer de l'autre côté, donc la voiture n'a pas monté sur le trottoir, donc à mon avis c'est techniquement impossible. Et du coup, ça va être les contractuels à l'ancienne, les pervenches. Sauf que dans une ville comme Paris, tu n'en vois quasiment plus, il n'y en a plus, ils ont mis que des voitures maintenant avec les caméras. Donc il va falloir embaucher des contractuels pour pouvoir aller voir les plaques des deux roues. Voilà. Pipa, mais non, je vais arrêter d'écouter l'actualité, ça me mine chaque jour un peu plus. Mais non, c'est pas la mort, ça, c'est des petites choses, c'est des petites choses, c'est des petites choses. Allez, je vous lis là-dessus et on fait un sondage. Donc, bonne question de Seyerman. Donc, le scooter, il est vrai avec un smartphone. Ouais, ça. Cocopilote essaie de prendre un petit peu de hauteur et dit, ça me semble assez logique, on va vers une politique de désengorgement des véhicules motorisés dans les villes. Et là, ça râle parce que c'est nouveau, puis ça deviendra normal assez vite. Ouais, c'est pas impossible. Ouais, Billy Fisher essaie d'aller plus loin aussi. Et si on refondait tout simplement les heures de travail pour revoir nos modes de transport, 3-4 jours de travail par semaine, et restreindre la voiture et la moto et plus de parking relais. Ok. Intéressant. Ça, c'est un pseudo qui claque. Captain Étienne vient de s'abonner. Merci à toi. Et Cédric, merci aussi pour ton Prime. On fait un sondage? Allez, let's go. Sondage, sondage. Nouveau sondage. Tac. La question va être. Le stationnement, en faire basique, hein. Payant des deux roues. Alors sachez que pour les deux roues électriques, c'est gratuit. Ça, je voulais pas préciser. C'est gratuit, sauf qu'il faudra quand même prendre un ticket. Voilà, parce que bon, le contractuel est pas censé savoir qu'il est électrique, et donc du coup, il faudra quand même prendre un ticket. Quand même avoir l'appli, faire la manip et je prends, tiens, j'achète un ticket à 0 euro, mais j'achète un ticket. Le stationnement payant des deux roues motorisées j'approuve. Première possibilité, on va faire basique, hein, on va faire basique, on va faire simple, efficace, simple, basique. J'approuve, je désapprouve. Je ne sais pas. Voilà, on fait simple aussi. C'est pas une question super, hein, c'est pas compliqué. Vamos. Et c'est parti pour le sondage. Attends, c'est mon deuxième journal seulement, c'est chaud quoi. Ça donne quoi? Ça donne quoi le sondage? Qui donne le sondage? J'approuve 65%. Ok. C'est clair. 22% je désapprouve. Ok, c'est assez net. Captain McBernick, c'est depuis le 1er janvier que c'est payant. Non, c'est au 1er septembre. C'est dans 2 jours, Captain. Je ne sais pas. 15%. Voilà. Je les approuve 19%. J'approuve 66%. Voilà. Je ne sais pas. 15%. Voilà. Ah, pas con. Il y a beau la menace, puisque tout le monde sait que le 3 est un E qui dit, bah voilà, il suffit de prendre que des tickets pour scooter électrique. Non, parce qu'en fait, c'est super, c'est tout. Je rentre pas dans le détail du truc. En fait, d'après ce que j'ai compris, mais c'est, le truc est une usine à gaz. Franchement, j'ai même pas envie de vous l'expliquer. Avant même de pouvoir prendre ton ticket via l'appli, du truc, machin, tout, faut t'inscrire sur un site internet. Ça ne demande pas ça aux voitures d'ailleurs. Faut t'inscrire sur un site internet, sur paris.fr, je sais pas quoi. Et à mon avis, ça doit te demander la carte grise de ton véhicule ou un truc comme ça. Voilà. Le truc a l'air. Ça a l'air simple. Ça a l'air simple. Une voiture, c'est bon, bah tu prends ton ticket, tu mets ton ticket, voilà. Voilà. Alors, un deux roues, c'est. D'abord, il y a deux zones à Paris, deux tarifs. Certains arrondissements, c'est 3 euros, d'autres, c'est 6 euros. Après, donc, c'est. Faut prendre le ticket, mais tu peux pas le mettre le ticket comme ça, donc c'est vraiment de la blib, bah, machin, c'est numérique et tout. Et après, il faut. Mais avant tout ça, faut t'inscrire sur le site internet du bousin, du truc, voilà. Voilà. Ah là là là. Bon alors, j'approuve 65%, je désapprouve 19%, 16%, je ne sais pas, je crois que c'est assez clair. Voilà. 6 euros de l'heure, bah ouais, voyons, bon, le sondage il est terminé. Ah oui, les tarifs. Vous avez un petit tableau là. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Alors, donc déjà, si vous êtes résident, pour le stationnement dans votre quartier, vous devez acheter une carte annuelle à 22,50 €. Et après, la journée. Pour vous stationner dans votre quartier en bas de chez vous, ce sera 0,75 centimes d'euros la journée. Voilà. Donc on va dire, je sais pas moi, Donc ça fait 0,75. Bon, 365 jours. 0,75, voilà, tu peux te garer en bas de chez toi pour la modique somme de 273 €. Pour te garer en bas de chez toi, plus 22,50 € annuels, voilà, ça te coûte 296 €, 300 balles, hein, pour garer ton scooter en bas de chez toi. Voilà. Ensuite, quand tu te déplaces, chouchou, alors, tarif horaire zone 1, non, c'est pas 6 €, c'est 3 €. 3 € de l'heure, dont du 1er au 11e arrondissement, et 2 € de l'heure dans la zone 2, donc du 12e au 20e arrondissement. Voilà. Après, il y a des passes mensuelles pour te mettre dans des parkings qui participent au truc, parking souterrain. Donc, c'est 90 € par mois dans la zone la plus chère et 70 € dans la zone qui est un peu moins chère. Voilà. Bon, je vous laisse faire votre calcul. Voilà. Donc, par exemple, si tu prends un parking mensuel en zone 1, bon, bah, c'est 90 € par mois de parking. Fois 12, hein. 90 fois 12. Voilà. Bah, c'est 1000 balles. Voilà. Voilà. 1000 balles. Voilà. Bon. On va voir comment ça va se passer. Il y a déjà, il y a toutes les entreprises de livraison, là, qui commencent à hurler, qui disent, attends, mon livreur, il s'arrête 10 fois, 20 fois par jour. Il est censé payer son stationnement. Hein, voilà. Et à chaque fois, prendre un ticket. Quoi. Voilà. Donc, ça va être un peu compliqué. Voilà. On aura l'occasion d'en reparler. Quelque chose me dit qu'on aura l'occasion d'en reparler. On continue ou pas? On continue? J'adore ce sujet. Bon, je suis un peu motard, moi, donc ça m'intéresse. En vrai, je vous donne mon sentiment là-dessus, je suis partagé. Le citoyen non motard dit « Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de roues dans nos villes. En même temps, c'est une façon d'échapper aux bouchons dans nos villes un peu congestionnées. Là, donc, c'est dans une grande ville comme Paris, c'est un moyen d'arriver à peu près à l'heure à un rendez-vous. » quoi. Donc, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et c'est vrai que parfois, ça se gare un peu n'importe comment. Pas tout le monde, mais il suffit d'une minorité pour foutre le bordel sur les trottoirs. Et puis certains, pas une majorité, mais une minorité, mais ça suffit pour foutre le bordel, ont des pots d'échappement qui sont pas légaux et ça fait beaucoup de bruit. Donc, je me dis, une politique un peu répressive qui tape au porte-monnaie pour limiter le nombre de deux-roues dans Paris, ok, pourquoi pas, dit le citoyen, dit le parisien, dit le papy Sam qui a envie de bien dormir la nuit, qui vieillit, qui commence à râler avec sa petite canne.
Les motos, tout ça.
Bon, ça, c'est Samuel le citoyen. Et puis Samuel le motard, il dit, putain, vous me faites chier, quoi. Moi, quand j'étais jeune, quand je faisais du scooter ou de la moto, c'était aussi parce que j'avais pas les sous pour m'acheter une voiture, quoi. C'est une moto, et encore plus quand tu l'achètes d'occasion, ou un scooter, eh ben, ça peut ne pas être cher du tout, quoi. Par rapport, évidemment, à une voiture, on parlait du prix des voitures tout à l'heure. Et donc, quand le Parisien dit « Ah ouais, mais les gens qui roulent à Paris en deux roues, ils ont plein de thunes et tout », là-dessus, je suis un petit peu sceptique. Et donc, je me dis qu'une partie des conducteurs de deux roues dans une ville comme Paris qui ont choisi ce mode de transport pour des raisons financières, hein, parce que c'est beaucoup moins cher, bon bah là, le budget en plus, je sais pas, je pose des questions. Voilà. Bon, voilà, je suis partagé entre ça et puis je vais me faire une raison, quoi. On parle un petit peu du CNR. Alors le CNR, ce n'est pas le Conseil National de la Résistance. Évidemment, je pense que le président Macron a choisi les mêmes lettres exprès pour renvoyer à cet épisode de notre histoire. Mais là, c'est le Conseil National de la Refondation. Donc ça, truc qui a été annoncé pendant la campagne électorale, le président Macron à un moment a dit « Oui, je sais, on m'accuse d'être un peu en mode Jupiter, de gouverner d'en haut, de pas trop écouter les autres, et notamment les corps intermédiaires, et les syndicats, et les citoyens, et les collectivités locales. Ça va changer. Ça va changer, vous allez voir, si je suis élu, si je suis réélu, eh bien je vais mettre en place un truc qui s'appelle le Conseil National de la Refondation, qui va changer ma façon de faire de la politique. » Ça arrive le 8 septembre, on y est. Le Conseil national de la refondation voulu par Emmanuel Macron sera lancé le 8 septembre. En interne, on s'interroge et une partie de l'opposition est vent debout. Je vous parle dès aujourd'hui de ce truc. Vous allez voir, ça va monter dans les prochains jours dans l'actu. Rien. Toujours rien. À 10 jours de son lancement officiel, jeudi 8 septembre, le Conseil national de la refondation continue de susciter méfiance et circonspection du côté des oppositions comme dans le camp présidentiel. C'est le grand flou, soupire un ministre, qui dit, sans donner son nom, enfin, je veux dire, il parle sous couvert de l'anonymat, je reste très perplexe, voilà 3 mois qu'Emmanuel Macron a mis cette idée dans l'atmosphère, on n'a toujours pas la moindre explication sur la façon dont cela va s'organiser. Ça, c'est un député de la majorité qui dit ça. Ça fait 3 mois que le président Macron en a parlé, en fait, on ne sait pas comment va fonctionner ce truc, c'est un petit peu embêtant. Et ce dernier député n'est pas le seul à le penser, après le refus des Insoumis, ils ont déjà dit on va pas participer à ce truc. Du Rassemblement National, le RN a dit on va pas participer à ce truc. Et des Républicains, qui ont dit on va pas participer à ce truc, ça commence à devenir un petit peu ennuyeux. C'est au tour du patron LR du Sénat, Gérard Larcher, troisième personnage de l'État, d'annoncer qu'il boycottera l'événement pour les mêmes raisons. Bon, lui, en même temps, s'il peut mettre des bâtons dans les roues du président Macron, il se gêne jamais. Vous pouvez voir toutes les prises de position de Gérard Larcher depuis 5-6 ans. C'est une petite constante chez le président du Sénat. Vouloir réunir dans une même instance des parlementaires, seuls constitutionnellement habilités à voter la loi et contrôler l'exécutif et des représentants de la société civile, ne peut aboutir qu'à la confusion des rôles, a-t-il écrit Gérard Larcher dans une lettre au chef de l'État qui a été dévoilée par le Figaro. Donc il a envoyé un courrier au chef de l'État et bizarrement, ce courrier, une copie est arrivée au Figaro. On se demande bien qui a donné cette copie au Figaro. Bref, l'affaire semble mal embarquée. François Bayrou, proche de Macron, n'est pas plus convaincu, le patron du Modem, qui est aussi... quel est son plan, son poste? Il est commissaire au plan, c'est ça? Commissaire au plan. François Bayrou, il dit... ah non, c'est contraire, il soutient Macron là-dessus. Excusez-moi, je trouvais ça bizarre aussi. Bayrou, lui, il défend justement le président Macron là-dessus. Il dit, par rapport aux partis qui ne veulent pas participer, la politique de la chaise vide... Eh ben, c'est ce condamné à rester comme nous sommes depuis des années, c'est-à-dire dans une opposition systématique des forces politiques entre elles, des forces parlementaires entre elles, et ne jamais pouvoir trouver une manière différente de vivre le pluralisme. Bon, Bayrou, il dit, mais si, c'est bien, il faut qu'on se parle. Sauf que les partis de l'opposition, a priori, ne veulent pas participer au machin. Aucun doute, ouais, monsieur Bayrou, pardon, aucun doute, le 8 septembre, Emmanuel Macron lancera bel et bien, 8 septembre, c'est demain, hein, cette nouvelle instance de dialogue, censée réunir toutes les forces politiques, économiques et sociales du pays, pour plancher sur les grands défis structurants des années à venir, particulièrement l'école, la santé, l'autonomie, le travail et l'écologie. Dans sa lettre d'invitation que nous nous sommes procurée, dit le Parisien, il dit ainsi vouloir tendre la main à tous ceux qui souhaitent agir à ses côtés, en mettant de côté les querelles partisanes afin de mener, je cite, à bien les grands chantiers indispensables à l'indépendance, au progrès, à la protection durable du peuple français. Le Conseil national de la refondation, précise-t-il dans sa missive, ne sera pas une nouvelle institution, mais une nouvelle méthode. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on ne sait pas trop, en fait. Ah, laquelle, précisément, demande le Parisien. À ce stade, peu de choses ont filtré sur le lancement. Déjà, sur l'endroit choisi, on ne sait pas où ça va se dérouler. Ce sera... en dehors de l'Élysée, glisse un proche du président. Selon nos informations, Emmanuel Macron va lancer la journée de présentation du CNR en rappelant les intentions du CNR, la méthode, le calendrier, puis se succéderont ce jour-là plusieurs invités pour dresser un état des lieux du pays, notamment le gouverneur de la Banque de France, le président de la Cour des comptes, pour présenter son rapport sur l'état des finances publiques ou encore la présidente du Haut Conseil pour le climat. Conclusion de l'article. Ce ne sera pas ni un grand débat national bis, ni une convention citoyenne bis, c'est ce que dit encore un proche du chef de l'État, mais avant tout, un espace de discussion pour se mettre d'accord sur un diagnostic partagé. Un espace de discussion pour se mettre d'accord sur un diagnostic partagé. Un défi de taille au vu du casting très hétéroclite annoncé comme des défections redoutables. Parce que ça va donner ce truc. Le diagnostic, on l'a déjà, dit Omical. Ça semble assez fumeux, cette histoire, dit Pas de Folle. C'est marrant, c'est pas le rôle de l'Assemblée de réfléchir à l'avenir, dit Razorball. Vous pensez quoi de ce truc? C'est beau la com, dit Masterclaw. C'est très fumeux, dit Fanastorm. Usine à gaz, dit Ronan. Du flan pour cette île barge. Qui se rappelle des conséquences concrètes du grand débat qui gouille? Bah, du verbiage, truc foireux, du pipeau. Je suis enthousiaste, dit Anne-Cécile. Je commence à avoir faim, dit Sébastien, moi aussi. Du violon, patati patata. Ouais, vous n'êtes pas super convaincu, le Parisien non plus. De la poudre de perlimpinpin, me dit Erendil. Bon, on a lu deux journaux en 1h53. On est sur un bon rythme, on est sur un très bon rythme. Je crois que je suis un petit peu bavard ce matin. Hein, vous aussi? Qu'est-ce que dit mon amoureuse à propos de l'anniversaire de Malo? La presse est importante, mais... Faut que j'accélère parce que... Hélène va venir gonfler des ballons. Sur sa pause déj, pour préparer une surprise pour Malo. C'est très important. Allez, donc on accélère un petit peu. La Croix, donc là c'est le sujet du moment, et tant mieux, dont on parle beaucoup. La centrale en Ukraine, la menace, c'est dans Libération, on ne l'a pas lu encore. Là, on est sur La Croix, donc en ce moment, on parle beaucoup d'environnement, d'écologie, heureusement, et aussi de la crise de l'énergie, du risque de pénurie en France en hiver. Donc La Croix nous dit, ça y est, on est au pied du mur, c'est la sobriété. En cette rentrée, l'exécutif prépare entreprises et ménages à économiser l'énergie. Il va falloir économiser l'énergie. Elisabeth Borne évoque pour la première fois un possible rationnement. Les dernières infos sur ce sujet de la crise de l'énergie en France et du risque de pénurie. Lisons ces mots en haut de cette page 2 de La Croix. L'exécutif fait sa rentrée sur le thème de la sobriété pour lutter contre les conséquences de la crise de l'énergie et du réchauffement climatique. Dans un discours au MEDEF, c'était hier en début d'après-midi, très attendu, Elisabeth Borne, la première ministre, a enjoint aux entreprises de prendre part à cet effort pour éviter tout rationnement. Les contraintes à venir devront être perçues comme équitables, ça c'est très important. Les contraintes à venir devront être perçues comme équitables par le plus grand nombre, alors que le mode de vie des plus aisés est vivement critiqué. On lira un article de La Croix qui est passionnant sur cette question. Si l'exécutif ne cesse d'afficher son attachement à la philosophie libérale consistant à inciter et non à interdire ou à contraindre, l'urgence climatique le pousse à agir différemment, note La Croix. Interdiction des terrasses chauffées, obligation de fermer les portes lorsqu'un local commercial est chauffé ou climatisé, interdiction de louer des logements mal isolés, interdiction de la vente de voitures thermiques en 2040, etc., 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 etc. Ça, c'est le constat de La Croix, à savoir que l'exécutif, parce que une des grandes questions en ce moment, c'est quelle est la politique en matière d'environnement de cet exécutif. La Croix souligne que, voilà, comme le président Macron se veut libéral sur le plan économique et politique, ce gouvernement se veut plus dans l'incitation que dans l'obligation. Et en même temps, note que des obligations, il y en a de plus en plus. L'interdiction des terrasses chauffées, l'interdiction de louer des logements mal isolés, l'interdiction de la vente de voitures thermiques en 2040, etc., etc., etc. En parlant de brièvement de ce que Elisabeth Borne a dit devant les patrons du MEDEF hier, qu'est-ce qui a été annoncé? On a un article dans Libération là-dessus. Ok, je vous le relirai tout à l'heure, mais en gros, parce que le suspense c'était, est-ce que Elisabeth Borne va un peu montrer faire les gros yeux aux patrons en leur disant qu'il faut absolument qu'ils diminuent leur consommation d'énergie, et puis est-ce qu'elle va parler de la question des super profits? Au final, elle a dit: entreprise française, objectif, baisser de 10% votre consommation d'énergie d'ici l'hiver pour éviter la pénurie. Faites-le vous-même, sans obligation. Si vous n'y arrivez pas, on fait un point dans quelques semaines, si vous n'y arrivez pas, eh bien, nous prendrons des mesures pour vous obliger à le faire. Incitation et éventuellement obligation. Sur la question des super profits, Elisabeth Borne dit quoi en ce moment? Elle dit taxer les super profits. N'écartons pas cette idée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en vrai, ils n'ont pas envie de taxer les super profits, mais ils gardent cette idée en l'air, en mode, si vous ne jouez pas le jeu, notamment les grosses entreprises, sur la réduction de consommation d'énergie, peut-être qu'on ressortira ce truc. En vrai, il n'y a aucune chance que ça arrive. Ouais, voilà, le truc est toujours maintenu. On parlera avec Libération tout à l'heure du discours de Borne devant les patrons hier. Avant de lire cet article, celui-ci dans La Croix que je trouve passionnant parce qu'il est vraiment au cœur de toutes les questions qu'on se pose sur l'environnement. Une fois qu'on a admis l'urgence climatique, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens dans le chat qui pensent, qu'il n'y a pas d'urgence climatique, je pense que vous n'êtes pas très nombreux. Une fois qu'on a admis l'urgence climatique, c'est là que le débat commence. C'est qui doit faire des efforts ? Qui doit faire des efforts ? Qui doit remettre en cause son fonctionnement, son style de vie pour lutter contre le réchauffement climatique ? Qui ? C'est parti. Les entreprises dans le chat, et puis les citoyens, les grosses entreprises seulement, etc. Chacun va y aller de sa proposition. Les Allemands, dit Alex, les autres, les plus pauvres, tout le monde, les riches, voilà. C'est le débat. Voilà. Je vois plein de gens qui répondent, tout le monde. Les dirigeants, voilà, pas moi, les très riches. Tout le monde à la hauteur de ses capacités, Amadeus. Voilà. Tous les acteurs le plus équitablement possible, Mastrom. Tous à notre niveau. Les piétons, dit quelqu'un qui est peut-être un motard. Les pays en émergence qui polluent énormément, voilà. Les autres, etc. Les éco-délinquants, voilà. Donc les autres, mais pas moi. Lisons ça, dossier de la Croix. Le SUV de Samuel Etienne, mon SUV chinois qui roule au charbon. Alors, sur cette question, l'article de la Croix. En cet été marqué par les catastrophes liées au réchauffement climatique, certaines pratiques des plus privilégiées ont été fortement critiquées. On pense notamment aux jets privés. Au-delà de la polémique, ces tensions sociales révèlent une demande d'équité dans le travail à fournir pour accélérer la transition écologique. Lisons cet article d'Antoine Oberdorf. Au cœur d'un été marqué par des événements météorologiques extrêmes, certaines pratiques présentées comme le fait d'une minorité de privilégiés sont apparues indécentes au moment où les efforts, les fameux petits gestes, étaient demandés aux Français. Aux dérogations dont bénéficient les golfs pour irriguer les greens en période de sécheresse, les activistes du climat ont répliqué par des opérations de sabotage. Quant aux sauts de puces effectués par des milliardaires en jet privé, leur impact carbone est désormais affiché sur les réseaux sociaux, comme pour mieux souligner l'impunité dont bénéficient ces ultra-riches au milieu de la fin de l'abondance. Ces injonctions aux petits gestes sont mal vécus lorsque les citoyens ont l'impression que la répartition des contributions à l'effort climatique sont à leur désavantage. C'est une sociologue qui dit ça, qui s'appelle Sophie Dubuisson-Kelly, qui est membre du Haut Conseil pour le Climat. Pour un autre sociologue, Jean-Baptiste Combi, qui est un spécialiste du rapport des classes populaires à l'écologie, non seulement les plus pauvres sont les plus exposés aux nuisances environnementales, mais ils ne tirent pas de gratification symbolique de leur mode de vie, alors que leurs modes de vie sont pourtant moins nocifs pour la planète. Au-delà des jets privés et des golfs, qui ont valeur de symbole, c'est l'ensemble des modes de vie, dit ce sociologue, l'ensemble des modes de vie des trois premiers déciles de la répartition des revenus, donc les plus riches, pour simplifier, qui doit être revu. Alors d'autres ne sont pas d'accord, notamment un économiste s'appelle Emmanuel Combet, qui travaille pour l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, et lui il dit « Non !» Donc, taxer les plus riches, ça ne suffira pas. Le problème est plus complexe, dit cet économiste, car le lien entre émissions de gaz à effet de serre et revenus fait encore débat parmi les chercheurs. Cet économiste refuse l'opposition manichéenne des riches et des pauvres en matière de justice climatique. Il préfère parler de capacité à agir. La part de responsabilité imputable à un pollueur varie s'il dispose d'une chaudière au fioul, par exemple, d'un grand logement rural mal isolé, ou s'il ne dispose d'aucun transport en commun à proximité. La localisation géographique, dit cet économiste, compte autant que la place dans l'espace social. Quel effort demander à qui ? C'est la question centrale. Luluca92, merci à toi pour ce 6e mois d'abonnement. Quels efforts demander à qui ? Aborder de front cette question est nécessaire, écrit la Croix, alors que ceci se précise ses efforts en matière de transport, de chauffage pour limiter le risque de tension sociale. Le ressentiment à l'égard des catégories les plus aisées, les plus riches, est le pendant d'un discours politique qui enjoint les changements de comportement à ceux qui ne disposent d'aucune marge de manœuvre, dit la sociologue Sophie Dubuisson-Callier, qui évoque l'épisode des Gilets jaunes d'ailleurs. Quel que soit le secteur, quelles que soient les mesures retenues, l'incitation est politiquement moins coûteuse que l'interdiction ou la sanction, l'acceptabilité des politiques climatiques à venir dépendra de la capacité à établir des contraintes perçues comme justes. Prévoir des mécanismes compensatoires à destination des ménages et des entreprises qui ne disposent pas d'alternatives à court terme semble nécessaire, écrit la Croix. C'est même un véritable nouveau contrat social qu'il faut inventer, selon l'économiste Emmanuel Combet qu'on citait tout à l'heure, dans lequel des activités incompatibles avec les limites physiques de notre planète seront collectivement dépréciées. Vous avez, dans cet article, les différents regards sur cette question. Est-ce que c'est surtout les plus riches, dont le style de vie serait très producteur de CO2, qui doivent faire des efforts. Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce qu'il faut aider ceux dont les revenus sont les plus faibles et ceux qui, dont le mode de vie est peu évolutif parce qu'ils sont coincés? Parce que, je sais pas, ils vivent loin de leur travail, parce qu'ils n'ont pas pu acheter un logement dans la ville parce que c'était trop cher. Donc, ils sont mis loin. Voilà. Et donc, du coup, ils ont une voiture, par exemple. Est-ce qu'il faut les aider, voilà, par exemple, au changement de véhicule pour aller vers un véhicule moins polluant? Voilà, c'est toutes ces questions qui sont en suspens. Pour moi, c'est le débat du moment. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que les mesures pour sauver la planète, il faut qu'elles soient socialement acceptables. Bah sinon, elles ne seront pas acceptées. Elles ne seront pas respectées. Bah, c'est ce que veut dire la croix. Voilà. Ah, on a lu Libération. Non, pas du tout. On a lu Le Monde, on a lu Le Parisien, on a lu La Croix en 2 heures. 3 journaux en 2 heures, je pense que c'est un nouveau record. 2 heures, 3 minutes de stream. J'ai mérité un café. Il reste plein de choses. Il reste plein de choses. Plein de choses très très intéressantes. Il reste l'opinion qui nous dit que, selon l'opinion, la gauche, l'extrême gauche, utilise l'écologie pour refaire la bataille de la lutte des classes. C'est vrai ça? Le Figaro qui estime que la France est de plus en plus à droite. C'est vrai ça? Libération qui nous parle de la fameuse centrale nucléaire de Zaporijia, voilà, qui va nous péter au nez, peut-être. C'est vrai ça? Libération. Et les Échos qui nous annoncent que bientôt on va tous rouler en voiture électrique chinoise. C'est vrai ça? Et puis pour terminer, L'Équipe qui nous raconte l'affaire Pogba, qui est une affaire de fou. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai, ça, y a pas débat là-dessus. Donc, je file à la cuisine, je vais me faire un petit café. Parce que je suis debout depuis 1h45 du matin, hein, pour la matinale. Donc là je commence à bien piqué du nez. Chercher un petit café et on relance pour une bonne heure encore. Hein. On lance pour une bonne heure. Voilà, bonne heure. Et après, je vais gonfler des ballons pour l'anniversaire de Malo. Voilà. Ok ? Allez, petit café. Vous aussi, vous faites un petit café. Allez, je vous mets une petite image de pause ici. Je vous mets une petite musique. Ah, c'est le morceau qu'on s'est écouté tout à l'heure qui était sympa. 3 minutes de musique, 3 minutes de musique pour les abonnés. Petite pub pour les autres, ne m'en voulez pas. C'est une autre façon de soutenir. Et on se retrouve juste après pour lire tous ces articles. À tout de suite. Je vous embrasse. noter l'habileté à couper un morceau de façon très subtile. C'est un joli mix à l'instant, c'est toujours à la hache. C'est la signature maison. Me voilà recaféiné. Pas trop quand même, parce qu'il y a une petite sieste l'après-midi. Puisque j'ai pas encore question pour un champion, ça reprend demain. C'est à partir de demain que je rentre dans ma semaine qui pique. Levé 2h, 3h à France Info, 3h jusqu'à 8h30, 9h. On va à question pour un champion, on ne rentre pas streamer, on ne pas se reposer et on enregistre des émissions jusqu'à 19h. 2h, 19h, très bien, très bien, pleine forme. On fait ça pendant 7 jours et après on peut reprendre une vie normale de France Info, de stream et de papa. Ah oui, j'ai fait comme Nagui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, Nagui fait ça. J'aurais pas dû parce que ça, à mon avis, c'est copyright ça. Bordel, arrête, vient d'écrire Complotox dans le chat. ASMR, café, lavage de café. Voilà, bain de bouche au café. L'odeur, quelle meilleure haleine que l'haleine d'un monsieur qui vient de se faire un bain de bouche au café. Hein? Voilà. Hein? Trouspinetus, merci. Merci pour ton prime. Link verte, merci pour ton abonnement. Et celui que tu veux faire à la communauté. Let's go, encore plein de choses à lire. On y va? Ouais, tu peux. Ouais. On va demander à ton amoureux si c'est vrai. Je ne pense pas qu'elle confirmera Samuel. Attends. La laine de café, mais c'est la plus belle haleine ever. Qu'est-ce que nous raconte l'opinion, deuxième partie de cette matinée, Étienne, de cette revue de presse? Que la gauche et l'extrême gauche s'empareraient de la thématique de l'écologie pour ressusciter la lutte des classes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Écologie, la lutte des classes recyclées, gauche radicale et écologiste, réactive selon l'opinion, merci Mortier Pilon pour ce très gentil prime, le combat contre les riches sous couvert de lutte contre le réchauffement, les symboles qu'ils ciblent, estiment l'opinion, n'ont qu'un rôle mineur dans le changement climatique. Voilà, avec un petit dessin de CAC, Jean-Luc Mélenchon ici, qui présente les nouvelles classes écologiques, donc classées vert LFI, un peu moins vert, mais bien Europe Écologie Les Verts. Un peu moins vert, mais ça va quand même le Parti communiste, selon Mélenchon. Ah, ça commence à se gâter avec le PS, qui est jaune. Et le mouvement d'Emmanuel Macron orange, ça vire à l'orange vif avec LR. Et puis alors, RN, c'est rouge. Voilà. Sur la question de l'écologie. Ça, c'est le dessin de CAC, qui est plutôt pas mal en général. CAC, c'est plutôt bien trouvé. Et maintenant, lisons l'analyse de l'opinion. Selon lequel donc la gauche utiliserait l'environnement pour ressusciter la lutte des classes. L'heure est grave. Elle n'est plus au constat, elle est à l'action résolue. Nous réussirons ensemble ou nous échouerons ensemble, a donc lancé Elisabeth Borne aux adhérents du MEDEF hier à Paris à propos du réchauffement climatique. La gauche et les écologistes ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde, écrit l'opinion, tout juste revenu en force à l'Assemblée après un marathon électoral. C'est désormais dans la rue qu'ils rêvent de prolonger leur combat. Leur réaction au propos d'Emmanuel Macron lors du Conseil des ministres du 24 août montre bien sûr quel registre ils comptent jouer. Les propos du chef de l'État sur la fin de l'abondance laissent-ils présager une politique qui pénaliserait uniquement les classes populaires? Qui a dit ça? C'est la gauche, selon l'opinion. Un raccourci, estime le journal. On rêve comme si les Français avaient manqué de soucis et s'étaient trop gavés, dit Fabien Roussel, le secrétaire général du PCF, accusant l'insouciance du président Macron et la prédation des riches. Quand vous êtes dans un pays où il y a 9 millions de pauvres, entendre un truc pareil, c'est incroyable, renchérit le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon. Les pauvres et les chômeurs sont les victimes. Les riches, les lobbies, les entreprises, les coupables, voilà, pour l'opinion, la bonne vieille lutte des classes qui fait son retour. Le problème de la NUP, c'est qu'en fait, les dirigeants ne s'intéressent pas du tout aux émissions de gaz à effet de serre. Juge en économie qui s'appelle Nicolas Bouzou. Il faut s'attaquer, non pas aux petits trucs, les jets privés, les machins. Il faut s'attaquer aux grandes masses que sont l'énergie, le transport, le logement. Or, la gauche n'en parle pas, dit cet économiste. S'en prendre aux jets, je continue. Aux jets et aux piscines, ça ne sert à rien. Les jets privés ne représentent, écrit l'opinion, que 0,2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Quant aux piscines, elles sont beaucoup démocratisé. Selon la Fédération des professionnels du secteur, les employés, ouvriers et agriculteurs représentent désormais près de 25% des propriétaires de piscines. Qu'importe ces attaques, écrit l'Opinion, permettent de recycler l'anticapitalisme, une notion que l'on croyait pourtant réservée au sociologue Frédéric Lordon et à quelques trotskistes. Cela ne permet pas de penser la complexité du monde, au contraire. Si on parle d'un seul et même système capitaliste contre lequel il faudrait lutter, on met dans un même paquet des milliers de décisions qui ne sont plus analysées, estime un philosophe, Bruno Latour. Je continue et puis je lis vos messages, bien sûr. Jusqu'ici, le gouvernement, alors, premier constat de l'opinion, la gauche utiliserait l'environnement pour ressusciter la lutte des classes. Et puis, deuxième partie de l'article, l'opinion s'intéresse à la... Mais, je vous ai pas mis la bonne caméra ? Ça a bougé ? Hop. Deuxième partie de l'article, l'opinion s'intéresse à la politique du gouvernement en matière d'environnement. Jusqu'ici, le gouvernement, écrit l'opinion, donne plutôt l'impression de la confusion. Confusion lorsqu'Emmanuel Macron est passé à un plan de relance du nucléaire après avoir fermé les deux réacteurs de Fessenheim et envisagé d'en supprimer une douzaine d'autres. Confusion aussi lorsqu'on demande des efforts de sobriété tout en instaurant un bouclier tarifaire sur les prix de l'énergie. Confusion encore quand Clément Beaune, le ministre des Transports, envisage une régulation des jets, on en a parlé ici, se voit rappeler alors par Christophe Béchu, son ministre de tutelle. Confusion, décidément, encore quand Elisabeth Borne dit ne pas fermer la porte à une taxe sur les superprofits, alors que les députés et sénateurs ont rejeté cette idée cet été. Voilà. Et que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, avait dit d'entrer son opposition au régime pavlovien de la taxe. Conclusion de l'article. Signé quoi ? Irène Inchopé. Si la période d'alignement des mauvaises nouvelles ne facilite pas la tâche du gouvernement, elle donne du grain à moudre à ceux qui veulent instrumentaliser une guerre des classes écologiques. Je crois que le message de l'opinion est assez clair. Qu'est-ce que vous pensez de ce regard ? On connaît la ligne éditoriale de l'opinion, FCE Balba, c'est vrai, journal proche des entreprises, qui défend la croissance, surtout pas la décroissance, et qui pense que, pour résumer, de la croissance, mais d'une croissance vertueuse, de la science, de la recherche, naîtront les réponses, et surtout pas de la décroissance. C'est vrai que c'est le regard de l'opinion sur cette question. Carlos Lastikos, merci pour ce prime. Voilà. Troupinetus. Encore une fois, la gauche se bat contre les branchages sans voir la forêt. Pourquoi se bat-il contre les jets privés et pas pour des carburants plus innovants et plus verts ? Bien plus productifs à mon goût, car déployables sur d'autres pays que le nôtre. Voilà. Le textile est la vraie catastrophe humaine de ces dernières décennies. On n'en parle pas assez, tonton Buzz. Le poids du textile sur le réchauffement climatique, sur les émissions de CO2, en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. Je suis assez d'accord. Mav, bonne journée à toi. Lloyd 67 dit de cet article qu'il y a une part de vrai, mais dans la politique, il y a aussi des symboles. Voilà. À propos des émissions de gaz à effet de serre des jets privés, Chacal dit 0,2%, oui, mais par combien de personnes ? Pas beaucoup, c'est vrai. Merci Solbur pour ce très gentil message et le 12e mois d'abonnement. Anniversaire. La rentrée sociale sera de toute façon assez rude, prédit Jaswan. Intéressant ce débat. Je ne suis pas en train de dormir, mais je suis en train de vous lire parce que je trouve ça très intéressant. Octobre, un peu saoulé de cet état d'esprit où rien n'est jamais assez bien. Tout est critiqué même quand il y a des avancées. Ah, abracadabrac tente une synthèse. Ça, j'aime bien aussi. Sinon, On peut juste écouter le consensus scientifique sur la question et comprendre qu'il va nous falloir des investissements et de la sobriété. Ok, c'est pour moi le message qui nous fait passer à la suite un débat qu'on aura à nouveau, ça c'est sûr. Puisque c'est le débat essentiel de l'époque que nous vivons. Je ne sais pas quoi penser de ça. Du Figaro, qui nous dit que la France est de plus en plus à droite. La France est de plus en plus à droite ? Ah ! Si vous allez me dire si vous connaissez un petit peu le sujet, ouais, mais alors c'est quoi la droite ? C'est la question. Dans une vaste enquête dévoilée par le Figaro, la Fondapol, Fondapol c'est la fondation, ça veut dire quoi ? Je crois que c'est l'ancienne, je crois que c'est la Fondapol, c'est l'ancienne FNSP, la Fondation Nationale des Sciences Politiques, dans ma tête, mais je peux me tromper. Hein. Fondapol. À l'époque, j'étais étudiant à Sciences Po, quand j'étais jeune à Paris, c'était juste à côté de la FNSP, Fondation Nationale des Sciences Politiques. Ah, mais peut-être que je me trompe, peut-être que c'est pas la même chose. Ah, je me gourre, c'est pas la même chose. Non, Samuel, tu dis une connerie. La Fondation pour l'innovation politique, Fondapol, laboratoire d'idées français, think tank, créé en 2004, rien à voir avec la FNSP, je dis une connerie. Ouais. Proche de la droite, elle s'inscrit dans une perspective très libérale, selon Challenge. Ok. Dirigée par Dominique Régnier, que je connais très très bien. Ok. Ah, donc c'est pas du tout la Fondation Nationale des Sciences Politiques. Ouais. C'est un laboratoire d'idées, donc plutôt classé à droite. Ok, d'accord. Donc c'est un peu plus clair maintenant. Toujours aller voir la source, d'où ça vient, bien sûr. Dans une vaste enquête dévoilée par le Figaro, Fondapol donc analyse la montée en puissance, il y a deux choses, du vote protestataire, tout particulièrement à la droite de l'échiquier politique. Cette étude dit deux choses, dit le vote protestataire progresse en France à gauche et à droite et plus à droite, et les Français votent de plus en plus à droite. Alors lisons cet article et dites-moi si vous êtes d'accord avec l'analyse du Figaro ce matin. Une France en colère et une France de plus en plus à droite, écrit le Figaro. L'année électorale qui vient de se dérouler porte en elle la confirmation qu'en France, le vote protestataire est désormais le phénomène majoritaire. Le vote protestataire est désormais le vote majoritaire. C'est ce que révèle cette étude. Les deux scrutins de 2022, donc présidentiel et législatif, viennent confirmer la progression de cette lame de fond. La colère des Français s'exprime à la fois par l'abstention, le vote blanc, et le vote en faveur de candidats protestataires, donc la Fondapol estime Marine Le Pen à l'extrême droite, Éric Zemmour à l'extrême droite, et Jean-Luc Mélenchon à gauche, considéré par la Fondapol comme un candidat protestataire. Le 10 avril 2022, les votes pour ces trois candidats de rupture ont été majoritaires pour la première fois dans l'histoire électorale du pays. Ils ont réuni à eux trois 52,17% des suffrages exprimés. Cette protestation électorale a augmenté à droite 5,2 points supplémentaires entre 2017 et 2022, même si elle progresse à gauche de 2,1%. On voit que dans ce calcul, manifestement, la Fondapol met Zemmour et Le Pen dans la droite. Courant protestataire, mais à droite. Et vous avez compris que Jean-Luc Mélenchon était mis dans le courant protestataire de gauche. Phénomène qui s'explique en partie, estime la Fondapol et le Figaro, que dans les urnes et dans l'opinion, la France d'aujourd'hui est majoritairement à droite. Après, quand vous regardez l'histoire de la Ve République et vous comptez le nombre d'années depuis 1958 où la gauche est au pouvoir, bah oui, vous voyez que dans notre histoire politique récente, la France a voté à droite. Hein. Si vous, voilà, vous avez Mitterrand et vous avez Hollande pour les présidents de gauche et puis les présidents de droite, bah, vous comptez De Gaulle, Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, Chirac, Sarkozy, et alors Emmanuel Macron, la question c'est où est-ce qu'on le met ? Justement, le Figaro en parle, assertion qui se vérifie notamment parmi les électeurs d'Emmanuel Macron, 47% des électeurs de Macron se situent à droite, 19% au centre et 20% à gauche. En prenant en compte les électeurs du chef de l'État qui se positionnent donc à droite, la Fonde Apol en arrive à la conclusion que le vote de droite représente 53% des suffrages exprimés au premier tour de la présidentielle. Donc en gros, on comprend que la Fonde Apol additionne le score de Marine Le Pen, de Zemmour, des électeurs de Macron qui se disent à droite et évidemment les électeurs de Valérie Pécresse, mais il n'y en a pas eu beaucoup. C'est surtout le RN qui agrège aujourd'hui la colère des électeurs, écrit le Figaro, ainsi qu'une partie de l'électorat de droite. L'évolution du RN dans l'opinion est aussi le fruit du glissement à droite de la société, estime cette étude. Les niveaux d'opinion favorables au Rassemblement National sont désormais élevés, et ça c'est une nouveauté, dans toutes les catégories sociales, non plus seulement au sein des catégories populaires, comme c'était le cas du temps du FN. Ainsi, entre le premier tour des législatives de 2017 et celui de 2022, le vote des cadres en faveur du RN est passé de 5 à 13%. Progression dans l'opinion qui n'est pas sans rapport, estime le Figaro, avec la personnalité de Marine Le Pen. Selon l'enquête du Fonds d'Apol, la chef de file des députés RN n'est plus une figure de rejet. Seuls 29% de ses électeurs la considèrent comme d'extrême droite. Près d'un tiers estime même qu'elle représente plutôt la droite modérée. Vous avez un tiers des électeurs de Marine Le Pen qui estiment qu'elle représente la droite modérée. Grâce à Marine Le Pen, le parti réussit peu ou prou son entreprise de dédiabolisation. Parmi les trois principaux candidats à la présidentielle, c'est elle qui suscite aujourd'hui le niveau de rejet le plus faible, 53%, et le niveau d'adhésion le plus élevé, 36%. Alors qu'Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter en 2027, il n'en a pas le droit constitutionnellement, les Français n'excluent pas une nouvelle candidature de Marine Le Pen, malgré ses trois défaites successives. Si Édouard Philippe est le candidat le plus attendu, selon cette enquête, la deuxième personnalité la plus plébiscitée par les électeurs, c'est Marine Le Pen. Voilà. Bon. Analyse, étude, ça, voilà. Qu'est-ce que ça vaut? Je sais pas. Est-ce que la France est plus à droite? Est-ce que faut compter Zemmour et Marine Le Pen dans ce qu'on appelle la droite? Qu'est-ce que la droite? Vaste débat. Franchement, c'est une question compliquée. Pas parce qu'elle est compliquée intellectuellement, mais parce qu'en fait, ça dépend vraiment de ce qu'on met derrière les mots, quoi. En fait, ce débat, il dépend vraiment de la définition de la droite. Qu'est-ce qu'on appelle la droite? Qu'est-ce que vous appelez la droite? Moi, j'ai une idée assez claire dans ma tête de ce qu'est la droite, que vous ne partagez pas forcément. Je vous pose quand même la question. Parce que j'ai quand même envie d'avoir votre sentiment là-dessus. Nouveau sondage. Avez-vous le sentiment que les Français votent de plus en plus à droite, puisque c'est ce que dit le Figaro? Avez-vous le sentiment que les Français votent de plus... Je peux mettre des plus dans le truc? En plus. Ça va jamais rentrer, ça. Ça rentre pas. On simplifie. Les Français votent de plus en plus à droite. Point d'interrogation. D'accord. Pas d'accord. Et j'ajoute une troisième réponse possible. Impossible de répondre à cette question. Pourquoi? Parce que vous estimez que ça dépend vraiment de ce qu'on met derrière ce terme et que du coup... Voilà. Et je rajoute, je ne sais pas, pour ceux qui n'ont pas du tout d'avis. Donc ça donne. Les Français votent de plus en plus à droite. D'accord. Pas d'accord. Impossible de répondre. Je ne sais pas. Sondage. Merci Scorpiozo, c'est très gentil. Merci pour ton soutien. Merci à tous ceux qui sub, qui s'abonnent pour soutenir mon activité sur Twitch. C'est grâce à vous que je peux être là le plus souvent possible. Merci. Alors, intéressant ce sondage. Ah, vous êtes d'accord. À une bonne majorité, hein. Plus de 55% qui estiment que oui, les Français votent de plus en plus à droite. Pas d'accord, 15% seulement. Impossible de répondre, hein, c'est ce que je disais. Ça dépend vraiment de ce qu'on met derrière ce mot. 18% et je ne sais pas 14%, mais on voit qu'il y a une majorité d'entre vous, et c'est intéressant, qui pense que oui, les Français votent de plus en plus à droite. Balubis n'est pas d'accord, écrit dans le chat, non, mais il se tourne, c'est vrai, de plus en plus vers les extrêmes. Mafalea85 écrit « J'aurais même dit les Français se radicalisent à droite. » Il y a Cyril Lux qui dit, je viens de voir un sondage qui dit que les Français veulent voir Édouard Philippe et Marine Le Pen au second tour, 2 points d'exclamation. Mais pas de point d'exclamation, il n'y a aucune surprise. Édouard Philippe est assez populaire dans les enquêtes d'opinion qui le visent. Édouard Philippe essaye d'incarner le candidat naturel qui succédera à Emmanuel Macron. Voilà. Donc il trace sa route depuis un moment. On sait qu'il a le regard dirigé vers 2027, vers la prochaine présidentielle. Là, il a une vraie popularité qu'il a gardé depuis Matignon, ce qui est déjà pas mal. Et on vient de lire dans l'article de voir ici que Marine Le Pen, malgré ses échecs successifs à la présidentielle, eh bien, garde sa popularité auprès de son électorat. Donc, voilà, le sondage dont tu me parles ne me surprend pas plus que ça. Bon, j'accélère un petit peu parce que j'ai une mission gonflée des ballons pour l'anniversaire de Malo dans pas longtemps. 54%, oui, pour vous, les Français votent de plus en plus à droite. Merci d'avoir participé. C'est super gentil. Je remercie les derniers subs. Né comme ça à l'instant, merci pour le Prime. Scorpioso, je t'ai remercié, je le refais. Et Solbur, je t'ai remercié tout à l'heure. Allez, un truc un peu léger. Vous êtes d'accord qu'on a mérité de s'aérer un petit peu là. Voilà, la politique, la crise de l'énergie, le stationnement des deux roues. On s'aère. Vous êtes prêts? Allez, on va parler de la centrale nucléaire ukrainienne là qui pourrait péter. J'adore parce que vous avez vraiment cru que je vous emmenais vers l'horoscope. Je vous ai bien eu. Libération. On va bien s'aérer. En fait, bon là je vais vous lire un papier en mode on va tous mourir quoi. Centrale de Zaporijia, centrale nucléaire en Ukraine. Il y a quelqu'un qui travaille sur place qui dit si quelque chose se passe ici, toute l'Europe sera touchée. Voilà un sujet léger, Poloche, exactement. Bombardement quotidien. Le problème, c'est que Russes et Ukrainiens se renvoient la balle en disant « Oh là là, il y a les Russes qui bombardent à côté de la centrale !» disent les Ukrainiens, et les Russes qui disaient « Oh là là, il y a les Ukrainiens qui bombardent à côté de la centrale !» Les deux camps se renvoient la balle, ça c'est les bombardements. Salariés terrorisés et épuisés, ça c'est les techniciens, les ingénieurs ukrainiens qui continuent de bosser dans la centrale alors que la centrale est aux mains des Russes depuis un moment. Problème d'alimentation des générateurs, dans une centrale nucléaire, c'est pas une super bonne nouvelle. Reportage de l'envoyé spécial de Libération en Ukraine, où plane toujours le risque de catastrophe naturelle. C'est vrai que je suis dans un... Je suis sur des infos un petit peu... Un peu chill, qui détendent un petit peu. Non mais en vrai, tu peux pas passer à côté de ça, quoi. T'es obligé de t'intéresser à ce qui se passe autour de cette centrale nucléaire en Ukraine, parce qu'en fait, en vrai, ça fait flipper. Édito de Dove Alphon. Erreur de calcul. Nous sommes à la merci d'une erreur de calcul. Calcul technique, calcul politique. Le Monde a frôlé la catastrophe jeudi, la semaine dernière, à 12h10, quand le système de sécurité d'urgence du réacteur numéro 5 s'est déclenché à la centrale nucléaire de Zaporijia dans le sud de l'Ukraine. Notre envoyé spécial a décrit la séquence qu'il a suivie jusqu'à 14h30, quand le dernier des 6 réacteurs encore en fonctionnement s'est arrêté à son tour, toujours à cause du système de sécurité d'urgence. On se rapproche tous les jours un peu plus d'un scénario comme à Fukushima, dit froidement notre interlocuteur, qui, comme nombre de ses collègues, continue d'aller travailler encadré par les soldats ennemis russes pour déjouer un scénario catastrophe. Car Zaporijia est la plus grande centrale nucléaire d'Europe et illustre d'une perfection glaçante l'avertissement au début du mois du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, l'humanité n'est qu'à une erreur de calcul de l'anéantissement atomique. Ce pourrait être par exemple une erreur de calcul dans une tactique de chantage mal rodée, donc là, erreur de calcul politique. Les Russes savent-ils vraiment ce qu'ils font dans 7 centrales nucléaires tournées en base militaire autour de 6 réacteurs de 1000 MW chacun? Ça fait maintenant 5 mois qu'ils ont pris le contrôle et l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, lasse d'attendre un apaisement, va tenter, c'est l'info importante, tenter d'en franchir les portes dans les prochains jours. En attendant, les forces ukrainiennes ont lancé lundi une contre-offensive dans la région de Kherson, promettant le début de la fin de l'occupation. Mais tout indique que nous ne sommes même pas à la fin du début de cette guerre, comme il est malheureusement peu probable que les salariés exténués de Zaporijia puissent encore tenir longtemps. La délégation de l'AIEA, qui va essayer donc de se rendre sur place dans les prochains jours, a devant elle une mission critique pour la paix en Europe. C'est chaud. Hein. Kraken Oz, l'hiver approche. Winter is coming. C'est chaud. Hein. Ouais. Dimeub à goût TV estime que c'est de la propagande de guerre et que franchement, la centrale, ça fait 6 mois qu'elle est en danger. C'est vrai que ça fait 6 mois qu'elle est en danger. Au moins 5 mois en tout cas. Mais je vois pas où est la propagande là. Bon, à surveiller dans les prochains jours, notamment cette visite de l'AIEA sur place, si bien sûr ils sont acceptés par les Russes. Je reviens très rapidement, mais alors très rapidement, sur le discours de la Première ministre Elisabeth Borne devant les patrons du MEDEF hier, c'était très attendu. Augustin, merci, c'est trop gentil. La question étant de savoir, qu'est-ce que va dire Elisabeth Borne au patron ? Elle a dit essentiellement une chose, elle a dit « les gars, on va vers une pénurie énergétique en France, un risque de pénurie énergétique en France, gaz, électricité pour l'hiver prochain. Vous avez nos petits problèmes avec la Russie, tout ça. La moitié de nos centrales nucléaires sont à l'arrêt. Bon, alors vous savez quoi ? Je vous résume, mais sans rire, hein, c'est comme ça. Vous allez diminuer de 10% votre consommation d'électricité et de gaz et d'énergie. Okay ? Vous diminuez de 10%. Et si vous diminuez de 10%, parce qu'il faut savoir, on s'est penché là-dessus avec beaucoup d'attention ce matin sur France Info, que la consommation d'énergie en France, c'est 60% les entreprises et 40% les particuliers. Donc, ces chiffres, le gouvernement les a et dit, bon, si les 60% représentés par les entreprises, on enlève 10% de ça, eh ben, ok, c'est cool, il n'y aura pas de pénurie, on va pas couper le gaz et l'électricité cet hiver. Donc, c'est ce qui a été demandé aux entreprises sur la base du « vous le faites, on vous y oblige pas, mais vous le faites ». Voilà. Et dans quelques semaines, on fait un point. Et si vous ne le faites pas, on prendra des mesures pour vous obliger à réduire votre consommation et sans doute votre production aussi. Voilà le message qui a été passé par la Première ministre au patron. Alors, Libé analyse un peu l'ensemble du discours de la Première ministre au patron en disant qu'elle a été pas trop sévère face au patron. La Première ministre qui a exhorté les entreprises aux économies d'énergie en misant sur la responsabilité collective, c'est ce que je vous disais. Pas de quoi contrarier les entrepreneurs à qui elle a promis la poursuite des baisses d'impôts. Voilà pour Libé. Et maintenant que je vous ai bien endormi, horoscope. J'essaie de vous changer les idées, de vous faire oublier que nous n'avons pas lu l'horoscope, mais malgré cela, Paparino a été d'une rapidité. Pour ceux qui sont là pour la première fois, quand je dis le mot horoscope dans ce stream, le premier, la première à me lire son à me donner son horoscope, son signe astrologique dans le chat, je lui lis son horoscope. On n'y croit pas, évidemment c'est de la connerie, mais ça nous fait marrer. Paparino a été le plus rapide avec Scorpion, et ce qui est fou, c'est que Quentin 23 Soleil a été le deuxième avec Scorpion. Le suspense est intolérable. Est-ce que la troisième personne à monter sur le podium de l'horoscope ce matin sera aussi un Scorpion ? Je descends dans le chat, attention, cette tension est totalement insane. Le troisième, sur la troisième marche du podium, il y a... Oh, incroyable! À la quatrième marche, qui n'existe pas, du podium, donc juste au pied du podium, il y avait Nomaxar, Scorpion. Je ne sais pas ce que vous avez le Scorpion ce matin, vous avez le feu. Mais la troisième place va à Baklava Pistache, qui est vierge. Et je parle de signe astrologique. Donc ce matin, c'est Scorpion. Je ne parlerai pas des femmes scorpions. Je ne sais pas s'il y a des femmes scorpions dans le chat. J'en ai déjà parlé. Mon vécu me rend prudent par rapport aux scorpions. Mais je ne veux pas juger l'ensemble des femmes scorpions à l'aune des scorpions que j'ai connues. N'en parlons plus. Scorpion. Cœur. Votre susceptibilité provoquera des heurts inutiles avec vos proches. Tiens donc. Tiens donc, tiens donc. Quelle surprise ! Réussite. Vous découvrirez que vous ne pourrez avoir confiance en personne au travail. Forme, faites du sport. Voilà. Ouais, bon. tu en penses pour les scorpions? Me méfie des scorpions. Ouais, me méfie des scorpions. Après, je suis sûr qu'un jour, je rencontrerai une scorpion qui me donnera tort. Ouais, pour les scorpions. Et qu'est-ce qu'il nous reste? 2h42, 2h28. Non, c'est trop gentil. Oh, j'ai ma belle maman, la maman d'Hélène, qui nous envoie plein de photos de Malo quand il était bébé. Parce qu'il fête ses 6 ans aujourd'hui. Oh. C'est papa et maman à la maternité avec le petit bébé Malo qui avait quelques heures. Oh, chouchou. Oh, il est tout petit. Maintenant, c'est un gros machin. Toujours aussi gentil d'ailleurs. Bon, vous connaissez Malo. Enfin, vous le voyez pas, mais. Oh, c'est papa avec le petit Malo. Oh, il a attrapé mes doigts. Oh. Et là, c'est maman magnifique enceinte. Mais ça, je vous montrerai pas. Hein, voilà. Ah, l'amour. Bon, maintenant, on va parler bagnole. On va parler bagnole chinoise. On va parler bagnole électrique chinoise. Parce que les échos nous disent que les constructeurs automobiles chinois partent à l'assaut de l'Europe. Voilà. Avec notamment une marque que je ne connaissais pas qui s'appelle BYD, BYD. Voilà, quelqu'un me disait tout à l'heure que c'était BYD, c'était l'acronyme de... Ah, BYD, ça veut dire quoi, BYD? Moi, je savais pas ça. Ça veut dire quoi, BYD, 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 BYD? Non, ça veut dire qu'il va BYD. Ça veut dire BYD, build your dream, build your dream, build your dream. Donc le numéro 1 mondial de la voiture électrique en termes de production, c'est pas Tesla, c'est BYD qui lance 3 modèles, et puis vous avez d'autres marques, Geely, Great Wall, SAIC, qui affichent de grandes ambitions sur le vieux continent. Pourquoi? On va comprendre dans un instant, c'est vachement intéressant. Leur grand défi sera d'installer des marques aujourd'hui inconnues. Voilà. Donc je peux feuilleter les échos autant que je veux, c'est pas dans cette partie des échos, c'est dans ce dossier ici. Hop, entreprise et marché, vachement intéressant, parce que derrière cette histoire, est-ce que demain on va tous acheter des voitures chinoises électriques? Il y a aussi la question de pourquoi les constructeurs automobiles chinois se tournent avec autant d'envie vers le marché européen. Règne Uni, merci pour le 12e mois d'abonnement. Taureau, j'ai pas eu. Allez, pour remercier le sub, petit coup de taureau, c'est mon signe aussi. Cœur, vous savourez d'harmonieux moments avec votre conjoint. Réussite, vous serez en première ligne pour prendre des responsabilités. Bon, allez, taureau, masterclass. Forme, votre tonus fera des envieux. Putain, allez, taureau, classe ou quoi? Les constructeurs automobiles chinois surfent sur l'électrique pour partir à la conquête de l'Europe. Les projets des Geely, des SAIC, des BYD, des Great Wall témoignent d'une réelle volonté de s'imposer sur les routes du vieux continent. Leur principal défi est imposer des marques aujourd'hui inconnues. Bon, c'est vrai que l'automobiliste, parfois, celui qui a assez de sous pour s'acheter une voiture, il essaye d'acheter la meilleure voiture possible pour son budget, et souvent, il va sur des marques qui lui inspirent confiance. Donc, est-ce que les consommateurs vont acheter des marques chinoises tout aussi intéressantes, soit les voitures et à prix éventuellement intéressant, si ces marques sont aujourd'hui totalement inconnues? 3 ans après leur premier tour de roue sur le bitume européen, c'est pas vieux, hein? C'était à l'été 2019, les ventes de ces voitures électriques chinoises ne sont plus tout à fait anecdotiques. Petite Street, merci beaucoup pour ce 3e mois d'abonnement. Selon le cabinet Inonev, elles ont représenté 14 000 unités en 2019, c'est pas beaucoup, 30 000 en 2020, ça monte un petit peu, 80 000 en 2021, ça monte, harmonie, salut. Mais l'offensive ne fait que commencer, ne serait-ce que dans les mois à venir, de nombreux nouveaux modèles vont arriver en Europe, de quoi inonder le marché d'ici à quelques années. Il y a une volonté extrêmement forte de l'écosystème automobile chinois de sortir de Chine, souligne un analyste qui a bossé sur le sujet, et il ne s'agit plus du tout d'un signal faible. Pourquoi les Chinois ont très très envie d'arriver sur le marché européen? Jugeant limiter la croissance potentielle de leur propre marché domestique chinois, eh bien, ils déploient des stratégies extrêmement agressives. Bon, ils disent qu'ils ne peuvent plus trop progresser en Chine, et donc ils arrivent sur le marché européen. Si les Chinois, il y a 10 ou 20 ans, se sont heurtés à un mur qui était celui des normes de sécurité occidentales, leur modèle passe maintenant sans problème les crash tests, c'est important. Bonjour aux Québécois. L'avènement du véhicule électrique leur a aussi ouvert les portes, et ça c'est intéressant. La barrière à l'entrée technologique du moteur à combustion a disparu. Voilà. Manifestement, les constructeurs chinois maîtrisent beaucoup mieux la propulsion électrique que le moteur à explosion. Et puis, autre avantage de ouf, Leur immense marché domestique leur permet de bénéficier de gros volumes et de faibles coûts avec des chaînes d'approvisionnement solides. Voilà. Vu la taille du marché intérieur, c'est vrai qu'ils peuvent produire des volumes de fou et donc baisser le prix des voitures. L'offensive de MG, de Beat, de Great Wall, qui lance des véhicules positionnés sur des segments de masse, donc pas forcément le haut de gamme, pourrait changer la donne face à des voitures électriques européennes de plus en plus chères, ça coûte deux bras, en privilégiant les véhicules les plus rentables. Les constructeurs européens laissent un pan du marché à celui des voitures les moins coûteuses à la merci des constructeurs chinois. L'offensive est impressionnante, reste à savoir si les consommateurs européens vont se laisser séduire ou pas par des marques qui sont aujourd'hui inconnues. C'est la question cruciale, le défi central des constructeurs chinois. Ils ont les véhicules, ils commencent à voir les réseaux de distribution, ils ont une volonté farouche d'y arriver, mais comment installer leur marque en Europe? Les constructeurs occidentaux n'ont guère intérêt à sous-estimer la menace, écrivent les Échos, alors que le moteur à combustion est voué à disparaître en France d'ici 2035. Est-ce que certains ont déjà acheté des véhicules chinois? Oui, c'est Basme qui te pose la question. Est-ce que, sérieux, il y a des gens qui ont acheté des véhicules chinois ici? Est-ce que certains ont l'intention de le faire? Francicatrice souligne l'apparent paradoxe. Donc, on veut faire de l'écologie avec des voitures chinoises que l'on fait venir de l'autre bout du monde. Sympa l'écologie. C'est vrai qu'aujourd'hui, essentiellement, ce sont des voitures qui nous arrivent via bateau. C'est vrai. Depuis la Chine. Voilà, Ben Paulet dit la même chose, faire venir une voiture de l'autre bout du monde alors que la qualité des voitures européennes est correcte, c'est beau l'écologie. Ça marchera pas, le Made in China fait trop peur, personnellement j'aurais jamais confiance. Moi j'ai lu ces derniers temps des essais de voitures chinoises dans les magazines auto français, ils disent que ça fait le job. Hein. C'est l'avis de Briochu, quand on voit l'ascension des appareils Xiaomi, c'est fort probable qu'ils vont cartonner. Il y a Boucle d'Or qui, je crois, fête un bon anniversaire à son papa aujourd'hui. Bon anniversaire au papa de Boucle d'Or. Trop mignon. Laissez-moi voir un truc. Et il reste un dernier article à lire. Et puis un raid, bien sûr. Laissez-moi voir un truc. C'est beau, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un tweet du joueur du grenier. À 11h56 ce matin. Vous notez que il y a un gros doigt d'adulte et une petite main de bébé. Ah, mais ça veut dire que l'enfant de joueur de grenier est né le 30 août, c'est-à-dire le même jour que Malo. Oh, c'est trop chou. Et trop mignon. Et plein de messages. On va liker direct déjà. Allez, on va lui mettre un petit message gentil. Hein. Voilà, il y a un petit message de félicitations de Carole Quintagne. Un message de Ponce, de félicitations. Billy, félicitations. Ah. Je suis sûr qu'on va trouver plein de streamers que vous connaissez là. Dessous. Allez, on lui met un message. C'est trop chou. Qu'est-ce qu'on lui dit? Comment on peut le féliciter dignement? C'est son premier ou pas? Bon anniversaire à Émilie qui a 3 ans aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on lui dit? C'est son deuxième? Bon courage pour les 20 ans à venir, propose Sidou. Souligne le fait qu'il partage l'anniversaire de Malo. Ouais, bon, enfin, je veux pas tout attirer à moi. Le nouveau joueur est arrivé, c'est pas mal. Il y a Bugineur qui propose le nouveau joueur est arrivé. Ah, c'est pas mal ça, j'aime bien ça. J'aime bien le nouveau joueur est arrivé. Il y a Francis Cicatrice qui propose Mission Completed. Oh, mais je vois un raid. Oh, Citron Violet. Merci Citron Violet, les amis de Citron Violet et Citron Violet lui-même. On est en train de se féliciter d'un heureux événement selon l'expression du streamer joueur du grenier, Frédéric, qui vient d'avoir un bébé. A priori, c'est pas le premier. Allez, comme c'est des photos. Merci Citron Violet. Allez voir la chaîne de Citron Violet. Streamer IRL, surtout français au Japon. On est en train de chercher d'imaginer un message de félicitations. Est-ce qu'il y a encore de la place dans le grenier? Here comes a new challenger. Il n'est pas prêt. C'est quand la prochaine vidéo? Le joueur du berceau est arrivé, papa du grenier. Juste félicitations. Le joueur du couffin. Bon anniversaire à Arthur Doz avec de l'avance ou du retard, je sais pas. C'est mignon. Je propose Game Over. Oh, il y a mon amoureuse qui est arrivée. On va gonfler des ballons. C'est drôle, il y a un célèbre streamer qui s'appelle Joueur du Grenier qui vient d'avoir un enfant aujourd'hui. Même jour que Malo. Du coup, on était en train d'imaginer un message qu'on pouvait lui mettre. Bienvenue au nouveau joueur, j'aime bien moi. Je sais pas. Voilà. Et puis après, on va faire un raid et puis après, je vais vous laisser parce que. On va aller gonfler des ballons avec Hélène pour Malo. Tu viens d'arriver? Oui. Bah, tu peux pas rester longtemps, je suppose. Alors je me dépêche. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'on met alors? Ah, c'est sans doute pour ça qu'il va. Ah, c'est son premier! C'est son premier! Ah, c'est son premier en plus! Ah, c'est drôle! Ah, c'est fou! Appelle le Samuel, propose Daruxan. Crédit Player One. Joueur 3 a rejoint la partie. Ça, je kiffe. C'est un coup de cœur. Kase Yumi propose Joueur 3 a rejoint la partie. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Je sais pas, j'adore ça. Ah, j'ai eu un coup de cœur, là. Voilà. Et on va mettre des applaudissements et un petit cœur. Alors, tac, tac. Joueur 3 a rejoint la partie. C'est pas mal ça. Vous validez? Je trouve ça très très bien moi. Très cool. Ouais. Ouais, bravo. Hein. Hein, vous validez aussi? Oh ouais. Trop bien. Voilà. Bon les amis, décidément, on n'arrive pas à lire. On n'arrive pas. C'est bien posté. Joueur 3 a rejoint la partie. Voilà. On n'arrive pas à lire les papiers sur l'affaire Pogba. J'ai pas réussi à vous lire l'article de l'équipe hier. Pas plus que celui-ci. C'est dommage parce que c'est une histoire incroyable. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, je m'excuse parce que les enregistrements de questions pour un champion reprennent demain. C'est-à-dire que je peux pas streamer demain matin. Je peux pas streamer jeudi matin. Je peux pas streamer vendredi matin à cause de questions pour un champion. En revanche, je serai bien là. Vendredi soir pour le numéro 2 de l'Hebdo Étienne, on revient sur l'actualité de la semaine avec trois invités qui sont calés. Je vous annonce demain soir le nom de ces trois invités. Et puis on sera ensemble dimanche matin pour un stream de revue de presse aussi pour lire les journaux ensemble, le journal du dimanche, le Parisien dimanche, l'équipe dimanche. Et vous me direz ce que vous avez pensé du numéro 2 de l'Hebdo Étienne. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit raid. C'est drôle parce qu'on vient de recevoir un très joli raid de Citron Violet. Et encore une fois, allez voir la chaîne de Citron Violet qui fait des super shows sur sa chaîne. Et nous aussi, on va faire un raid augmenté, renforcé par les troupes de Citron Violet. On a fait combien ce matin? 2h56. Ah, quasiment un stream de 3h, c'est parfait. Comme d'habitude, dans le chat, mettez-moi des noms de streamers, de streameuses qui sont en live actuellement, qui n'ont pas encore une grosse communauté, qui n'ont pas beaucoup de viewers. Voilà, on va les appuyer, les aider, les soutenir, les encourager. Voilà, parlez-moi de chaînes que vous connaissez, qui sont en live bien sûr actuellement, et on les raid dans 2 minutes chrono. Je vous mets 2 minutes de musique, 2 minutes de pub pour ceux qui ne sont pas abonnés, et on se retrouve dans 2 minutes pour un joli raid. Humainement, c'est toujours des moments forts, restez avec moi. À tout de suite. Ok, super, bon, j'ai oublié d'envoyer la pub, c'est pas grave. Donc du coup, ça a été musique pour tout le monde. C'est très jolie proposition de raid. On est vraiment dans les anniversaires, les naissances aujourd'hui, la naissance du premier enfant de Joueur Le Grenier, l'anniversaire de mon petit Malo. Et je vois qu'il y a un streamer, du coup il y a du monde, hein. Il y a déjà près de 1000 viewers sur sa chaîne, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Je crois qu'il est en train d'ouvrir des cadeaux, ça a l'air mignon comme tout, assez touchant. Le plus drôle, c'est qu'il est parti se faire un café à l'instant sous mes yeux. Donc en plus, c'est un café nomade. Donc ça veut dire qu'il est parfait. Voilà, donc on va raid Yann. Je vous envoie tout de suite. Voilà, souhaitez-lui un bon anniversaire de ma part. Décidément, c'est une journée un peu... Je le vois, il est en train de faire son café. Ok, ça part. Soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous. On se retrouve vendredi soir pour l'Hebdo Étienne, 20h avec 3 invités, pour revenir sur l'actu de la semaine. À très vite. Salut à Yann, bon anniversaire.